Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 7h.
Je vous le dis bien dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez ? Rien. Ni là, ni dans d'autres affaires.
Nicolas Sarkozy, déterminé à prouver son innocence aujourd'hui. Premier procès pour l'ex-président, celui des écoutes. Il est accusé de corruption et de trafic d'influence. 60% des Français prêts à se faire vacciner, mais seulement 20% tout de suite. Sondage BVA qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Mais sommes-nous prêts à la lancer, cette campagne de vaccination ? Réponse dans un instant. Dans ce journal, grand dossier sur le bilan des destructions d'emplois. Pendant les 6 premiers mois de l'année, certains départements résistent, d'autres pas du tout, comme les Hautes-Pyrénées.
Dernier jour de travail, 14 mars, et depuis, chômage. Et tant qu'on ne saura pas, on ne pourra rien envisager.
On s'intéressera aussi à Amazon, épouvantail pour de nombreux commerçants qui crient à la concurrence déloyale. Et pourtant, ils sont plus de 10 000 à utiliser la plateforme pour vendre leurs produits. Et puis, cette jolie constatation d'un jeune Breton.
Au Moyen Âge, je crois, ils n'avaient pas d'Internet. Donc, ils faisaient avec des mots, ils criaient.
Et oui, comme au Moyen-Âge, on entend en ce moment des crieurs de rue à Dinan.
Il n'y avait pas Internet.
Incroyable.
Au Moyen-Âge. Il n'y avait pas le télétravail non plus. Du coup, va-t-on enfin fixer un cadre au télétravail ? L'éclairage éco de Nicolas Barré après ce journal. Le sommet du G20 ce week-end en visioconférence. Le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Contrairement à Jacques Chirac, jugé pour détournement de fonds publics et qui n'a jamais assisté à la moindre audience de son procès, Nicolas Sarkozy a bien l'intention d'être là tous les jours pour son premier rendez-vous judiciaire. L'ex-président se retrouve donc aujourd'hui devant un tribunal pour corruption.
C'est ce qu'on appelle l'affaire des écoutes ou l'affaire Paul Bismuth. Vous allez nous la remettre en tête. Chloé Triomphe, bonjour.
Bonjour.
Tout part des écoutes de juges sur les lignes de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog.
Oui, effectivement, et c'est dans le cadre d'une autre enquête, l'affaire libyenne, que pendant plusieurs mois, à partir de fin 2013, les magistrats écoutent les deux lignes de l'ancien chef de l'État et de son avocat Thierry Herzog. Je dis deux lignes car l'une est officielle et l'autre, disons, confidentielle, puisqu'elle a été ouverte sous un faux nom, c'est la fameuse ligne Paul Bismuth. C'est en réalité le patronyme d'un ancien camarade de classe de Thierry Herzog, et dans le jargon policier, on appelle ça un TOC pour téléphone occulte.
Et qu'est-ce qui interpelle les enquêteurs dans ces conversations ?
Eh bien, Nicolas Sarkozy et son conseil échangent sur des renseignements qu'ils cherchent à obtenir sur la décision que doit rendre la Cour de cassation au sujet de la restitution des agendas de l'ancien chef de l'État qui ont été saisis par la justice. Et dans ces conversations, il est question d'un haut magistrat de la Cour, Gilbert Azibert, qui pourrait les aider et un peu plus tard, du petit coup de pouce que Nicolas Sarkozy pourrait lui rendre en échange pour l'obtention d'un poste à Monaco. Finalement, les renseignements donnés se sont avérés faux, le magistrat n'a jamais eu le poste et Nicolas Sarkozy conteste avoir intercédé, accusé de corruption, vous l'avez dit, et trafic d'influence. Tous espèrent obtenir une relaxe.
Merci Chloé Triomphe. Et vous avez pu rencontrer en exclusivité Maître Ivens avant cette audience. C'est l'avocat de Thierry Herzog. Et pour lui, circuler, il n'y a rien à voir.
Tout repose dans ce dossier sur des bribes et des extraits de conversation entre un avocat et son client qui sont montés en épingle ou mis abusivement en relation pour venir à l'appui d'une thèse qui ne résiste pas à l'examen. Ce qui est grave, c'est que ce sont des conversations entre un avocat et son client. Et donc, il y a un véritable problème de secret professionnel, du secret des avocats. Et dans cette affaire, on a écouté tout le monde, on a interrogé tout le monde. Nous démontrerons que ça ne tient pas la route une seule seconde. Quand on entend corruption, on entend parler de trafic, d'argent. Dans cette affaire, il n'y a pas un sou. Il y a des conversations entre amis dont on tire des conclusions qui ne correspondent pas à la réalité.
Et le procès doit s'ouvrir en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel. Il pourrait être reporté à la demande de Gilbert Azibert pour raison médicale. Et puis devant la cour d'assises spéciale, le procès des attentats de janvier 2015 doit reprendre après 3 semaines de suspension. Le principal accusé malade du Covid y assistera en visioconférence, ce que contestent de nombreux avocats.
7h04 sur Europe 1. 6 Français sur 10 d'accord pour se faire vacciner contre le Covid. Résultat du sondage BVA pour Europe 1 que nous dévoilons ce matin. C'est quand même un oui mais, si on regarde dans le détail, car seulement 20% envisagent de le faire dès que possible.
Oui, on va revenir en détail sur ce sondage à 7h30, mais reste à savoir si la France est prête pour une grande campagne de vaccination. Bonjour Adrien Beck.
Bonjour.
C'est le branle-bas de combat au sein de l'exécutif.
Oui, branle-bas de combat à la mesure de l'accélération du calendrier. On ne parle plus en mois, mais en semaines avant la disponibilité d'un vaccin. Alors, dans les ministères concernés, les réunions s'enchaînent. Emmanuel Macron lui-même s'investit personnellement. Il a organisé, il y a 10 jours, à l'Élysée, une réunion avec les ministres en charge du sujet. Une autre devrait avoir lieu cette semaine. Les réponses à apporter sont essentielles. Qui vacciner en premier et quand ? Faudra-t-il, par exemple, passer par son médecin traitant, avoir une ordonnance ? La Haute Autorité de Santé doit fournir un protocole dans les prochaines semaines. Et puis, comment transporter, comment conserver ce vaccin ? Enfin, et surtout, il faudra convaincre les Français d'aller se faire vacciner. C'est le gros défi du gouvernement. Ces derniers jours, Jean Castex a prévenu ses ministres : nous ne devons pas rater le tournant du vaccin. Il reste de fait au gouvernement très peu de temps pour arriver à bien négocier ce tournant.
Adrien Beck. Et en attendant le vaccin, priorité toujours au dépistage. Des opérations pilotes de tests antigéniques sont lancées ce matin dans une trentaine de lycées d'Île-de-France. Ça concerne les personnels et les élèves volontaires.
Crise sanitaire et crise économique vont de pair, évidemment, et toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne. Arrêtons-nous ce matin sur cette intéressante étude du cabinet Arthur Lloyd, spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour.
Vous avez pu consulter cette carte des destructions d'emplois au premier semestre de cette année, Olivier. Elle fait clairement apparaître deux France.
Oui, il y a la France qui parvient à limiter la casse et celle qui a pris de plein fouet le choc de la crise sanitaire avec très vite d'importantes destructions d'emplois. Je commence par cette deuxième France. Ces départements dans le centre, le Grand Est, une partie du bassin parisien, souvent à dominance rurale, où il y a beaucoup de contrats précaires et de missions d'intérim qui n'ont pas été renouvelés à partir de mars-avril. On trouve aussi dans cette France-là des départements dont l'activité est fortement liée au tourisme. Et on sait que le tourisme a beaucoup souffert du confinement.
Alors justement, restez avec nous Olivier, on va prendre un exemple. Les Hautes-Pyrénées, effondrement de l'intérim et tourisme à l'arrêt, ces deux facteurs conjugués, eh bien, ils entraînent la perte de 9% des emplois. Vous l'avez constaté à Tarbes, Benjamin Péter.
Oui, je me suis notamment rendu dans l'agence Adeco de Tarbes où le directeur Olivier Ducastin voit les CV d'intérimaires dans l'aéronautique s'accumuler sur son bureau.
C'est tous les CV des personnes qui sont sans emploi et on est en train de travailler justement pour arriver à reclasser ces publics.
Ici en mars, 170 intérimaires travaillaient chez Daher, un gros sous-traitant du département, il n'en reste plus que 25.
L'impact, il a été immédiat. L'aéronautique pour Adeco, Tarbes, ça représentait 45% de notre chiffre d'affaires. Maintenant, 10% même pas. S'il ne rentre pas des commandes, on n'en retrouvera pas, quoi qu'il en soit, les chiffres d'avant le premier confinement. Il faudra du temps.
L'autre secteur en crise, c'est le tourisme. À Lourdes, 2500 saisonniers se sont retrouvés au chômage, comme Jérôme que j'ai rencontré. Il travaille en station de ski l'hiver, dans une brasserie à Lourdes l'été et n'a aucune perspective.
Dernier jour de travail, 14 mars, et depuis, chômage. L'avenir sur Lourdes, aujourd'hui, il n'est pas loin de zéro, donc du coup, ça fait des insomnies. L'équilibre financier de la famille qui avait été bâti, il est tout par terre. Et tant qu'on ne saura pas, on ne pourra rien envisager.
D'autant plus préoccupant que son épouse, elle aussi, est saisonnière au chômage et son plus grand-fils apprenti dans l'aéronautique. Une voie qu'ils avaient pourtant choisie ensemble pour ses débouchés dans la région.
Benjamin Péter, à Tarbes pour Europe 1.
Olivier Samin, vous nous parliez de deux France. La deuxième, celle qui réussit à limiter la casse, elle est où ?
Alors pas de surprise, ce sont les départements qui bénéficient de l'attractivité d'une grande métropole, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Lille. Dans ces grandes villes et dans les territoires qui les entourent, la diversité du tissu économique a permis d'atténuer le choc. Il y a quand même une exception qui est surprenante, l'Île-de-France. On pensait que son dynamisme la mettrait à l'abri, ben non. La région capitale concentre plus d'un quart des destructions d'emplois enregistrées dans toute la France au premier semestre. L'explication, c'est sa très forte exposition à des métiers qui ont énormément souffert avec le confinement, le tourisme, l'événementiel, la culture et le coup d'arrêt des activités aéroportuaires.
Enquête que vous nous dévoilez ce matin, Olivier Samin, et retenons que l'Île-de-France représente plus d'un quart des destructions d'emplois.
Et puisqu'on parle des difficultés économiques, on entend beaucoup la détresse des petits commerçants qui devraient d'ailleurs pouvoir ouvrir le week-end prochain. Certains accusent le grand méchant loup d'Internet d'être en partie responsable de leur malheur, j'ai nommé Amazon.
Le site continue en effet à proposer des produits non essentiels pendant le confinement, alors concurrence déloyale sans doute, pourtant près de 11 000 entreprises françaises vendent leurs produits via Amazon.
Bonjour Romain Oquet.
Bonjour.
Alors on va d'abord écouter Samuel, créateur de bougies. Il vend via Amazon depuis 3 ans.
C'est une vitrine qui est absolument monumentale. Donc ça nous a rajouté du jour au lendemain une grosse ligne de chiffre d'affaires.
Romain, vous avez contacté des petites sociétés au hasard. Visiblement pour elles, Amazon est devenu un canal de distribution quasiment incontournable.
Oui, parce que pour ces entreprises, les ventes via Amazon, c'est en moyenne 10 à 20% de leur chiffre d'affaires. 15% précisément pour le créateur de bougies que l'on vient d'entendre. Ces produits sont vendus et expédiés par Amazon, où beaucoup de clients ont déjà un compte. Forcément, la transaction est plus simple que sur le site de l'entrepreneur.
Vous allez sur Amazon, vous tombez sur une bougie de notre marque, vous cliquez sur « Acheter » et vous êtes livré demain gratuitement. Sur notre site, ça vous prendrait au moins 3 minutes, quand sur Amazon, ça vous prend 20 secondes.
Alors, ce service a un coût, 40 euros par mois et une commission sur chaque vente. Mais d'après les calculs de Nicolas, vendeur de thé, l'opération reste malgré tout rentable.
Sur des produits à 7 ou 10 euros, ils vont prendre quasiment 50%, donc c'est énorme. Après, il faut savoir que qu'on vende sur Amazon ou à un distributeur type grande surface, pour moi, la commission, elle est à peu près similaire.
Cette PME a donc tout misé sur les ventes Amazon qui lui rapportent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Une dépendance très risquée pour Gérard. Pourtant, même ce libraire s'y est mis en proposant ses livres sur le site.
C'est un rouleau compresseur. Il y a 3 ans, la commission était de 10% seulement. Aujourd'hui, elle est passée à 15%. Ça a été décidé de manière unilatérale. C'est eux qui imposent les règles. 100% des règles. Disons que je fais avec.
Et puis sur la plateforme, ces commerçants cèdent aussi leurs fichiers clients, les meilleures ventes. Des données précieuses qu'Amazon est accusé d'exploiter en recréant ces mêmes produits sous sa propre marque.
Roman Hockey, c'est justement à cause de ces soupçons d'utilisation des données de vendeurs tiers qu'Amazon est sous le coup d'une enquête de la Commission européenne. Rendez-vous dans le journal de 8h à présent, le poids réel d'Amazon, les petits commerçants qui organisent des alternatives, la question fiscale, bien sûr, aussi autour d'Amazon, dossier spécial dans le journal de 8h.
Allez, un sourire. Maintenant, direction Dinan dans les Côtes d'Armor. Là-bas, comme partout, les comédiens sont au chômage technique. Alors la ville en a embauché plusieurs. Devinez pourquoi ? Eh bien, pour porter les bonnes nouvelles. Oyez, oyez, bonnes gens. Voici le reportage de Charles Guyard.
Oyez, oyez !
16h30, au milieu d'un petit square entouré d'immeubles, une voix résonne, puis quelques curieux passent une tête dehors.
Ah, voilà, il y a quelqu'un. Oh, bah, ça fait plaisir.
Coiffé d'une couronne, Christian est accompagné de Mélodie et Morgane.
Deuxième info municipale.
Chaque mardi et vendredi, ces trois comédiens de la compagnie locale Une Aile la Nuit jouent les crieurs de rue à Dinan. Pauline Ciotta, coordinatrice du centre social, à l'origine de l'initiative.
Pourquoi ? Pour redonner le sourire aux habitants, pour pouvoir garder du lien avec eux.
Et l'opération intègre aussi les élèves des 4 écoles publiques invités à rédiger des messages qui seront lus à la sortie des classes. L'occasion de faire un peu d'histoire pour Ahmed en CM2.
Parce qu'au Moyen Âge, je crois, ils n'avaient pas d'internet. Donc ils faisaient avec des mots, ils criaient.
Ces textos de rue, en somme, sont une aubaine pour les comédiens rémunérés par la ville.
Le théâtre derrière un écran, c'est plus du théâtre. On préfère le faire en présentiel avec des gens et partager pour faire notre métier, en fait, tout simplement.
Message personnel transmis via la mairie, information locale, poème.
Merci à tous.
Les crieurs de rue se produisent jusqu'à la fin du confinement.
Et puis, courage, ça va bientôt finir.
Dinan, Charles Guyard, Europe 1.
Il y avait une info à la fin du sujet.
Quand je pense qu'au Moyen-Âge, on n'avait pas Internet.
Mais si on cherche une reconversion, ça dit, ils ont de la voix, plus que des gens de radio, ces crieurs de rue.
Et puis, le club de foot de Lille a écrasé Lorient 4-0 hier soir. Il conserve sa deuxième place au classement derrière le PSG.
Merci beaucoup Hélène Zélani. Il est 7h13 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est un témoin du siècle dernier, bien sûr, mais un témoin de l'actualité ce matin. Un autre regard, plus élevé, plus réfléchi sur notre société. Philosophe, sociologue Edgar Morin n'a pas tardé après le premier confinement. Il publiait « Changer de voix », une réflexion pour le monde d'après. Aujourd'hui, il dit son inquiétude de voir les Français se diviser, s'opposer. Il a 99 ans. Il a traversé le siècle, vous disais-je, et ses épreuves. Edgar Morin est l'invité du Tête-à-Tête Europe Matin, tout à l'heure, à 7h40. Tout de suite, l'éclairage écho de Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouette.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h16.
Région Job vous présente l'éclairage éco. Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le président de la République annoncera demain les prochaines étapes de l'allègement du confinement, notamment pour les commerces. En revanche, il n'est pas question de toucher au télétravail.
Non, la consigne va rester la même. Télétravail à 100%, 5 jours sur 7, partout où c'est possible. Et ce, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le Premier ministre reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux. Le message est clair. S'il est bien question d'assouplir les règles pour les commerces dits non essentiels dès ce week-end, eh bien, le gouvernement ne veut pas encore prendre le risque d'assouplir le télétravail, synonyme de plus d'interactions sociales, de plus de monde dans les transports en commun, etc. L'objectif reste de casser la dynamique de l'épidémie c'est d'éviter à tout prix une troisième vague.
L'assouplissement est donc renvoyé après les vacances de Noël.
Oui, si la situation sanitaire le permet, ce qui est quand même probable. Et puis, une autre raison non négligeable plaide pour un assouplissement, c'est quand même la lassitude d'un nombre croissant de salariés. Le télétravail à 100% crée des situations de stress, de ras-le-bol, voire des pathologies plus graves. Enfin, plus largement, les bénéfices économiques sont mitigés.
Pourquoi ?
Ben parce que d'un côté, le télétravail, s'il est institutionnalisé par exemple 2 jours par semaine, peut permettre d'économiser des mètres carrés de bureau. Toutes les entreprises qui le pratiquent font ces calculs en ce moment. En revanche, certaines s'inquiètent pour les métiers les plus créatifs où le travail en équipe est capital. Là, le télétravail peut se traduire par une chute de productivité. Et puis dans d'autres cas, c'est le contraire. Ce qu'on économise en temps de transport rend le travail plus efficace. Bref, vous le voyez, le paysage est complexe. Enfin, les salariés auraient tort de se réjouir trop vite. Des études montrent que le télétravail favorise la modération des salaires.
Ah oui ?
Les entreprises peuvent embaucher plus loin des grands centres urbains, là où le coût de la vie et notamment du logement sont moins chers et donc où les exigences des salariés sont moins élevées. Le télétravail, vous voyez, va changer énormément de choses dans la vie de millions de salariés et on n'a pas fini d'en mesurer les conséquences, bonnes ou moins bonnes.
Vous venez de doucher tous les espoirs de ceux qui espéraient le salaire de la Défense en vivant dans la Creuse.
Et c'est un peu ça, oui.
Nicolas Barré, merci beaucoup. C'était l'éclairage.
L'éclairage éco vous a été présenté par Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous ? Trouvez votre futur employeur avec plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
On change de sujet, quoique, vous allez l'entendre. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Vous revenez ce matin, Vincent, sur le sommet du G20 qui s'est tenu ce week-end.
Oui, alors avec le sommet du G20, le problème c'est peut-être le nom, parce que c'est vain, ça paraît tellement vain de réunir les dirigeants des pays qui comptent quand on lit leur communiqué final. Comme tous les ans, c'est un catalogue de vœux pieux sur un sujet à la mode, et cette année c'était le coronavirus, avec deux idées vagues. Primo, les pays les moins avancés et qui ont carrément reculé, la dette les écrase, il faut ajourner les traites. La bonne nouvelle serait que la Chine arrête de leur vendre à crédit n'importe quoi. Et puis, l'accès au vaccin. Angela Merkel est la dame patronesse de la mondialisation. Elle s'inquiète pour les plus pauvres, à juste titre. Il manque 28 milliards de dollars à l'usine à gaz imaginée par l'OMS pour garantir que les pays riches ne monopolisent pas les tests, les vaccins, les traitements.
Emmanuel Macron aussi est inquiet.
Mais il redoute avec le vaccin le scénario d'un monde à 2 vitesses. Mais le G20 lui-même est un monde à 20 vitesses et la gouvernance mondiale reste en panne. Le G20 devait remplacer le Conseil de sécurité, incapable de se réformer. Sauf que les États-Unis ont renoncé à entraîner les bonnes volontés. Et du coup, au G20, seuls comptent les apartés, les tête-à-tête. Et on se demande si ça mérite cette orgie médiatique avec grand tralala protocolaire et feu d'artifice de gyrophare. Ben
voilà au moins une question qui ne se pose pas cette année.
Ben oui, parce que le G20 était virtuel, il n'y en a jamais eu de plus modeste, et c'est un comble puisque ça se passait en Arabie Saoudite. Le roi Salman et son grand-fils au sourire carnassier rêvaient d'une vitrine, et on a vu sur l'écran, côte à côte dans leur vignette, les puissants de ce monde épinglés dans leur petite case comme des papillons dans une boîte. Donald Trump a fait une apparition samedi avant de retourner jouer au golf. C'est l'avantage du télétravail, on choisit l'heure de la sieste. Dimanche, il est réapparu pour dire aux autres qu'ils allaient continuer à travailler longtemps ensemble. Le sommet était en mode virtuel, mais le Donald est resté très réel, égal à lui-même. Le G20, en 2020, était particulièrement vain.
Merci Vincent Hervouet, et cela dit, cette image, vous avez raison de la souligner, cette image des 20 puissances du monde, qui sont comme ça, des petites icônes Zoom, comme on a tous eu nos apéros Facebook, c'est assez étonnant, c'est aussi ça, cette année 2020. Merci Vincent Hervouet. Vous restez bien sur Europe 1, la lutte contre les violences, mais aussi la survie des fédérations en temps de Covid. Le judo fait sa révolution. L'édito sport dans une minute.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, nous retrouvons Virginie Fulpin pour l'édito sport. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Mine de rien, le sport français a connu un petit séisme hier. Stéphane Nomis a été élu président de la Fédération française de judo. Il a battu Jean-Luc Rouget, le premier champion du monde français de la discipline, qui briguait un cinquième mandat. Pour vous, c'est le symbole de la révolution que peut et que doit entreprendre le sport français ?
Ben finalement, ça existe peut-être, hein, le sport d'après. Vous savez, ce concept de mode d'après qui a agité notre premier confinement et qui a complètement disparu du deuxième. Hein. Le judo français vient de le ressortir du placard avec l'élection de Stéphane Nomis. Le nouvel élu a déboulonné la statue de Jean-Luc Rouget qui briguait un cinquième mandat. On le pensait inamovible, hein, vu son passé glorieux et la puissance de son réseau. Mais Stéphane Nomis est sorti vainqueur de cette guerre des anciens et des modernes. Et pour moi, ça n'est pas anecdotique parce que ça ne serait jamais arrivé sans la crise sanitaire. Un temps où le sport français préférait la continuité, ne rien bouger dans les instances. On critiquait, oui, mais sans agir. Là, on assiste à un vrai changement, à une prise de conscience qu'il faut tenter autre chose pour survivre, sans pour autant dénigrer ce qui a été fait avant. Hein. Ça peut amener d'autres sports à oser le changement, ne plus voiler la face et taire les sujets qui fâchent, mais les affronter, bille en tête. On jugera sur pièce, hein, mais le discours de Stéphane Nomis a de quoi susciter l'espoir. Sa première volonté, c'est de lutter contre les violences dans le judo. Les témoignages glaçants se multiplient, hein, des mineurs agressés par leurs entraîneurs. Et lui ne cache pas le problème sous le tapis, hein, il en fait une urgence absolue. Il veut discuter avec d'autres fédérations pour appliquer les recettes qui fonctionne dans ce domaine, enfin.
Ne plus se cacher, c'est ce que vous appelez de vos voeux, hein, pour le sport français dans sa globalité.
Bah oui, et ça fait des années pour le judo que le judo se cache derrière Teddy Riner. C'est sûr que derrière le géant des tatamis, on peut facilement se planquer. Mais si on regarde de plus près, le judo masculin ne va pas bien en France. Les résultats sont en berne. Alors heureusement, les filles sont là. Hein. Elles viennent de le prouver au championnat d'Europe avec 5 médailles d'or sur 7 possibles. Et justement, c'est sur la réussite des filles que Stéphane Nomis veut et doit s'appuyer. L'autre gros problème, c'est la chute du nombre de licenciés avec la crise. Comme le nouvel élu est aussi un chef d'entreprise, il veut changer le modèle économique pour faire venir des sponsors, pour que ce sport ne dépende plus uniquement des licences. Alors je ne sais pas si Stéphane Nomis réussira, mais au moins, il arrive avec des idées nouvelles, il s'appuie sur les clubs, hein, dans une relation qui est beaucoup moins verticale que tout ce qu'on connaît dans le sport français. Et ses propositions me semblent plus intéressantes qu'une énième tribune pour demander de l'aide.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport, c'est tous les matins sur Europe 1. Il est 7h25. Et nous retrouvons Stéphane Bern, comme tous les jours, pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors, comme c'est le début de la semaine, n'est-ce pas, on retrouve ses collègues, ceux qu'on apprécie et ceux qu'on apprécie moins d'ailleurs. Ceux qui nous font rire et ceux qui parfois nous courent sur le haricot. Alors, courir sur le haricot, Mathieu, d'où vient cette expression qui est un peu passée de mode à mon grand regret ?
Il me court sur le haricot, ça veut dire il m'agace.
Oui, alors, c'est la fin des haricots veut dire autre chose, il n'y a plus d'espoir, rien à voir. Mais revenons justement à courir sur le haricot. Dès le XVIe siècle, courir quelqu'un était une expression populaire pour signifier importuner. Au XIXe siècle, il existe aussi le verbe haricoter, qui signifie une personne mesquine en affaires qui négocie sur des petits détails insignifiants et qui, du coup, quelqu'un qui nous enquiquine. Pour vraiment comprendre courir sur le haricot, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les haricots signifiaient les orteils. Dès lors, quand on nous court sur les haricots, eh bien, on nous casse les pieds.
Oui, d'un seul coup, on comprend mieux. Et dans les autres pays, Stéphane, est-ce qu'on court aussi sur le haricot ?
Non, à croire que c'est une spécialité française. En Allemagne, on dit « il me marche sur le biscuit ». En Algérie, « il me fait monter le gaz à la tête ». Tandis qu'en Argentine, on dit « hinchar las pelotas », il me gonfle les ballons. Vous l'avez compris. Bon, je vous ai épargné en ce lundi matin les expressions les plus vulgaires.
Merci, merci cher Stéphane. On va vous retrouver tout à l'heure. Tout à l'heure Stéphane, à 16h avec Mathieu Noël.
Oui, le programme aujourd'hui, c'est « Où êtes-vous ?» On vous cherche partout. On réunit trois personnalités de l'histoire qui ont mystérieusement disparu. Pour quelques jours, comme Agatha Christie, ou pour toujours, comme l'inventeur du cinéma Louis-Aimé Augustin le Prince. Et pour quelques jours ou pour toujours, on ne sait toujours pas, avec Ri Sol-joo, la femme de Kim Jong-un qui n'est plus apparue aux côtés du leader nord-coréen depuis plusieurs mois, mais Mathieu Noël a enquêté à sa manière. Bref, on vous raconte l'histoire, sans se la raconter tout à l'heure, de 16h à 18h sur Europe 1.
C'est historiquement vôtre et c'est de 16h à 18h. Stéphane Bern et Mathieu Noël, à tout à l'heure Stéphane, il est 7h27. Je voudrais partager avec vous deux petits extraits du week-end. D'abord, dimanche après-midi, nous sommes à Paris devant l'église Saint-Sulpice. Écoutez. Alors dans le débat qu'on a pu avoir la semaine dernière sur la célébration du culte en public ou non, voilà ce que proposaient les catholiques donc du 6e arrondissement de Paris, l'église Saint-Sulpice, que vous connaissez certainement, sur l'esplanade, hein, devant une forme de rupture de confinement. Deux salles, deux ambiances à Paris, tout autre chose. 300 personnes ont participé samedi soir à une fête clandestine à Paris, un hangar désaffecté à quelques pas de l'ancienne voie ferrée du 13e arrondissement de la capitale. Une soirée baptisée I Want to Break Free, lieu transformé en boîte de nuit, un coin bar, un dance floor, une piste de danse donc, ou encore une scène pour les DJ. Images diffusées sur les réseaux sociaux, cette fois la police n'est pas intervenue pour mettre un terme à la fête qui a pu se poursuivre jusqu'à l'aube. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Ouais, et les anticyclones se multiplient, nous sommes installés dans un système anticyclonique qui devrait durer d'ailleurs plusieurs jours, même peut-être plusieurs semaines. C'est la tendance depuis maintenant quelques années, nous sommes entrés dans un monde d'anticyclones et nous changeons de voie en quelque sorte. Nous quittons le climat tempéré et variable pour un climat continental. Voilà, ça c'est le changement de voie qui va s'opérer en météo probablement, mais je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais vous courir sur le haricot. Alors je voudrais simplement vous dire que la journée d'aujourd'hui s'annonce dans l'ensemble froide, froide ce matin surtout, moins 4 degrés à Ambérieu, moins 3 à Dijon, moins 2 à Lyon, moins 1 à Luxeuil, à l'heure où nous parlons, 1 à Cognac, 2 à Bordeaux, 5 à Marseille, 7 à Biarritz, 8 à Lille et 10 degrés à Paris. Dans l'après-midi, entre 10 et 15 degrés, là, ça a bien monté grâce à l'ensoleillement, car il fera beau sur la plupart des régions. Alors quelques réserves sur la Normandie, le Nord, la Picardie, les Ardennes, la Champagne, la Lorraine, la région parisienne et l'Alsace, dans toutes ces contrées.
Ça en fait quelques réserves quand même, pardonnez-moi.
Oui, ça en fait une dizaine. Bon, donc c'est un temps de bruine, un ciel nuageux, un ciel couvert, avec des brouillards dans la vallée de la Saône. Bon, mais partout ailleurs, ce sera du beau temps, en tout cas un temps rayonnant, avec quelques nuages sur la Bretagne et le centre, mais c'est rien. Et dans l'ensemble, ce sera une belle journée. Allez, demain, ce sera à peu près la même chose, et nous aurons toujours cette petite nuance, ou ces petites réserves qui vous plaisent.
Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
Les plus jeunes sont ceux qui sont les moins enclins à vouloir se faire vacciner. Mais même chez les sujets potentiellement à risque, il y a une certaine méfiance.
6 Français sur 10 se disent prêts à se faire vacciner, mais pas forcément tout de suite. Résultat d'un sondage exclusif qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Nicolas Sarkozy face au juge, l'ancien président comparé dans l'affaire dite des écoutes. Jugé pour corruption, il continue de clamer son innocence. 7 militaires devant la justice poursuivis pour homicide involontaire après la noyade d'un élève officier de Saint-Cyr. C'était il y a 8 ans. Et puis que faire de vos chèques vacances qui s'amoncellent depuis le premier confinement? Pas de panique, ils seront bien valables l'année prochaine.
Juste après ce journal, le terrorisme, le Covid, la crise climatique, un regard sur nos sociétés bouleversées. Le sociologue et philosophe Edgar Morin, invité du tête-à-tête Europe Matin. Les équilibres de pouvoir au sein du gouvernement, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant, Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, Aurélien Taché, député du Val d'Oise et fondateur du mouvement Nous Demain. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Si un vaccin efficace contre le Covid-19 était disponible, seriez-vous prêt à vous le faire administrer? C'est un oui pour 60% des Français, selon les résultats d'un sondage BVA que nous vous révélons ce matin. 60%, c'est un bon score, Victor Dolande, mais en réalité, il y a quelques nuances à prendre en compte.
C'est vrai. 6 Français sur 10 sont partants, c'est beaucoup, mais seulement 20% envisagent de le faire dès que possible, tandis que les autres préfèrent attendre un peu, parce que l'inquiétude est là. Le souci majeur pour les 3/4 des personnes interrogées, c'est la rapidité de conception du vaccin. Ensuite, la peur des effets secondaires est également très présente. 73% de nos concitoyens la partagent. Très intéressant également, les réponses sur la provenance du vaccin. 6 personnes sur 10 déclarent que le pays d'appartenance du laboratoire pharmaceutique qui aura trouvé le sérum n'est pas déterminant dans leur choix. Mais au-delà de ces déclarations de principe, quand on leur pose la question directement, autrement dit, quand on évoque précisément des pays, les réponses sont très partagées. Ainsi, moins de 20% des Français accepteraient un vaccin s'il était conçu dans un laboratoire pharmaceutique russe ou chinois. À l'inverse, ils sont 3 fois plus nombreux, 64%, à dire oui à un vaccin d'un laboratoire européen, et encore plus nombreux, 72%, s'il provenait d'un laboratoire français.
Victor Dolande, l'épidémie de coronavirus qui continue de ralentir en France, un peu plus de 13 000 nouveaux cas recensés au cours des dernières 24 heures. Le pic semble franchi. Emmanuel Macron promet d'apporter un cap et de la clarté demain soir à 20h lors de son allocution.
À la une de l'actualité aussi aujourd'hui, Nicolas Sarkozy jugé à partir de ce matin dans l'affaire des écoutes.
C'est une première dans l'histoire de la 5e République. Un ancien chef d'État jugé pour corruption devant le tribunal correctionnel. Nicolas Sarkozy dénonce un scandale qui restera dans les annales et promet d'être combatif. Aurélie Herbemont, si l'ancien président martèle qu'il a tourné la page de la politique, son ombre reste bien présente à droite.
Chez LR, il est vu comme la boussole, le taulier, et ses bureaux de la rue de Miroménil ont des allures de siège parallèle du parti, tant les élus se pressent pour entendre ses analyses, avoir ses conseils et prendre une photo, bien sûr. Il a un côté Johnny, s'amuse un ténor, une personnalité de référence un peu trop omniprésente aux yeux de certains. Il empêche une figure forte d'émerger à droite, explique un jeune député. D'autres l'accusent d'avoir inhibé Baroin pour 2022. Le problème est résumé par ce cadre. On cherche le nouveau Sarkozy et la comparaison est toujours cruelle pour les autres. Nicolas Sarkozy, dernier candidat de droite à avoir conquis l'Élysée, d'où la nostalgie, beaucoup préférant occulter sa défaite en 2012 et son élimination au premier tour de la primaire en 2016. Pour les Français, Sarkozy, c'est le passé, tranche un ténor, mais ça n'empêche pas certains de l'imaginer revenir à nouveau s'il franchit les obstacles judiciaires, quand d'autres le voient juste en faiseur de roi. Difficile aujourd'hui, en effet, de se passer de la bénédiction sarkozyste.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Le procès de l'ancien président devrait s'ouvrir en début d'après-midi. Devrait, car il est possible qu'il soit renvoyé à la demande de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert pour raison médicale.
Autre procès qui s'ouvre aujourd'hui, celui de 7 militaires de la prestigieuse école de Saint-Cyr-Couette-Quidan.
Ils sont poursuivis pour homicide involontaire 8 ans après la mort de l'élève officier Jalal Hami, noyé lors d'une soirée d'intégration. L'épreuve consistait à franchir un étang à la nage et de nuit, en tenue complète, le frère de la victime, Rachid Hami, attend beaucoup de ce procès.
C'était une activité de franchissement d'eau, en nage commando, en pleine nuit, sans respecter aucune règle de sécurité. Il y avait une panique générale dans l'eau. Il y avait beaucoup d'élèves officiers dans l'eau à ce moment-là, et qui se débattaient, qui se bagarraient. Très franchement, moi ce que j'attends, c'est que les élèves de deuxième année, qui, de manière consciente et sadique, ont décidé d'envoyer les gamins nager une deuxième fois, alors que le premier passage a été une hécatombe, qui a failli avoir des morts et qu'ils ont décidé de continuer cette activité, moi j'attends de vous que la justice leur mette de la prison. Les personnes qui ont causé la mort de Jalal, certains sont encore dans l'armée. Et je trouve que très sincèrement, ils sont indignes de cet uniforme. C'est une honte qu'ils sont encore dans l'armée.
Un témoignage recueilli par François Coulon. Le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan de lutte contre les violences conjugales. Parmi les pistes envisagées, la formation des policiers et le renforcement des hébergements pour les victimes. Syndicats et patronats ont rendez-vous aujourd'hui pour essayer de conclure enfin un accord national sur le télétravail. Cette réunion, voulue comme la dernière, a peu de chances d'aboutir à cause des fortes divergences qui persistent entre les deux camps.
7h35 sur Europe 1. Cette question à présent. Que faire de nos chèques vacances et tickets restaurants qui arrivent bientôt avec
Oui, le confinement n'est pas terminé, les commerces sont toujours fermés, les restaurants ne devraient pas rouvrir avant janvier prochain. Mais pas de panique, Aurélien Fleurot, vous nous rassurez ce matin, la durée de validité de tous ces titres va être prolongée.
Oui, exactement. D'abord, les chèques cadeaux. C'est en ce moment la période où les Français en utilisent le plus, mais beaucoup ne sont valables que jusqu'à fin novembre. Alors pas de panique, rien n'est perdu et encore mieux, vous n'avez rien à faire. Les différentes entreprises comme Edenred et ses titres Cadeo ont toutes prévu de prolonger leur validité jusqu'à fin janvier ou même fin février 2021. Les commerçants sont au courant et ne peuvent pas refuser ces titres qui sont pourtant périmés sur le papier, comme le confirme Caroline Tikhomirov, directrice marketing et stratégie du groupe Sodexo.
Nous avons évidemment incité et donné comme consigne à tous nos partenaires marchands, je dirais, d'appliquer cette prolongation. Si jamais le bénéficiaire se voyait refuser cette prolongation, il a toujours la possibilité de revenir vers son CSE qui reviendra vers nous pour l'échange de ses titres. Donc au final, il ne perdra rien.
Concernant l'échec vacances, là aussi ce n'est pas perdu, mais en revanche, c'est à vous de faire la démarche en ligne pour les échanger. Vous aurez jusqu'au 31 mars pour le faire. Et enfin, les titres restaurants, toujours utilisables dans les commerces alimentaires restés ouverts, ils sont valables jusqu'à fin janvier. Sodexo demande d'ailleurs 2 mois supplémentaires. En tout cas, rien de perdu. Votre employeur pourra également vous les échanger.
Aurélien Fleurot, et si vous comptez utiliser vos chèques vacances en partant au ski, par exemple, il faudra d'abord attendre que les stations ouvrent leurs portes. Jean Castex reçoit aujourd'hui les professionnels de la montagne et les élus qui espèrent une réouverture pour les vacances de Noël. Et puis le foot, Lille conserve sa 2e place au classement de Ligue 1 après avoir balayé Lorient hier soir 4-0.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'invité politique d'Europe Matin, c'est Aurélien Taché, député du Val-d'Oise et fondateur du mouvement Nous Demain. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Mais tout de suite, nous allons vous parler de vous, la société française, face au Covid, face à la barbarie terroriste aussi. Le plus dangereux est que deux France se dissocient et s'opposent, dit le philosophe Edgar Morin. À 99 ans, il pose son regard sur l'actualité, sur les enjeux du moment. Edgar Morin est l'invité du tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h39. Une parole sage ce matin, celle d'un homme qui a traversé et observé le XXe siècle, mais qui, à 99 ans, garde sa capacité d'étonnement, son intérêt pour la description de nos sociétés. La crise du Covid, celle du terrorisme aussi, les enjeux d'une période troublée. Mon invité ce matin, le sociologue et philosophe Edgar Morin.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Dès le mois de mars, vous disiez « L'après-épidémie sera une aventure incertaine où se développeront les forces du pire et celles du meilleur. » Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ?
Écoutez, on n'est pas dans un moment, on est dans une transition. Nous sommes encore dans cette crise multidimensionnelle qui nous concerne personnellement chacun et en même temps la planète tout entière. Les forces du meilleur, ce seraient les forces d'imagination capables de trouver une voie de salut, nous en parlerons peut-être, et les forces du pire, ce sont les forces de régression qui déjà se manifestaient avant la pandémie, mais nous ne sommes pas encore dans le pire.
Quand on a votre vécu, votre expérience, est-ce qu'on se dit que tout passe, les crises finissent bien à un moment, les jours heureux, le bout du tunnel, ça existe ? Vous êtes optimiste ?
Écoutez, je ne suis ni un pessimiste ni un optimiste, je suis un esprit vigilant, ou bien si vous voulez, je suis un opti-pessimiste. Je pense que les choses probablement vont aller assez mal. Mais je pense que le probable, comme nous l'avons vu souvent dans l'histoire, ne se réalise pas, que c'est l'improbable qui arrive. Je garde un espoir raisonnable, mais pas d'euphorie et pas de désespoir.
Edgar Morin, récemment, vous avez rappelé le somnambulisme des années 30. Ça veut dire que, selon vous, on refuse de voir des dangers, on ferme les yeux sur certains principes. À quoi pensez-vous lorsque vous parlez de somnambulisme ?
Prenons l'exemple de la dégradation de la planète. On a tellement peu pris conscience, les nations n'ont pas pris les décisions qu'il fallait. Donc ça, c'est un cas typique de somnambulisme. D'autre part, nous sommes dans un monde où se multiplient les fanatismes, où se multiplient les armes nucléaires, où se multiplient les armes informatiques, où se multiplient les armes biochimiques, où se multiplient les dangers de pandémie. Moi, je me rappelle très bien l'époque de la résistance. On était très peu nombreux, mais on commençait à représenter le souhait d'un toujours un plus grand nombre de nos concitoyens. Mmh. Et donc, même si on n'était pas nombreux, on allait dans le bon sens.
C'est un message à la jeunesse ?
Écoutez, la jeunesse, elle, vit dans la précarité. Moi, j'ai vécu aussi ma jeunesse dans une autre précarité, qui était celle de la guerre et de la résistance. Dans cette précarité, quand on a l'impression qu'on lutte pour une bonne cause, on se sent bien dans sa peau. On est tonique. Moi, je pense, si vous voulez, que les jeunes doivent penser que ce qui est important, c'est d'abord de résister dans leur esprit contre tout ce qui peut abattre et les démoraliser. Pour là, il faut qu'ils continuent à vouloir se réaliser eux-mêmes, à réaliser leurs aspirations, mais toujours dans la fraternité, dans la communauté. Mmh. La jeunesse elle-même, elle porte des énergies et des aspirations très belles. Et bien, il faut qu'elle continue à les porter.
Dans le journal Le Monde, vous dites que le plus dangereux est que deux Frances se dissocient et s'opposent. C'est ce que vous observez ?
Il s'est passé une chose étonnante qui se comprend très bien. Pourquoi elle se comprend ? Parce qu'il y a eu quand même les assassinats de Charlie, il y a eu la décapitation d'un professeur, il y a eu un climat qui a créé une sorte de psychose collective et presque une sorte d'hallucination autour de ces caricatures. Mais quand il y a eu les assassinats, ces caricatures ont été sacralisées. Et on a eu l'impression, certains, même au plus haut sommet de l'État, ont cru que c'était l'expression du génie national de la liberté française. Ce n'était pas la liberté française. C'était simplement des grossières caricatures, mais dans le climat qui s'est créé, il y a eu ça. C'est-à-dire, il y a une contradiction entre notre liberté qu'on doit sauver et parfois le sentiment de notre responsabilité. Qu'est-ce que c'est ? Moi, ce que je sens, c'est que si je fais un acte sans penser aux conséquences possibles et sans mesurer les conséquences possibles, je fais un mauvais usage de ma liberté.
La liberté, la responsabilité, dans la défense de Charlie, des caricatures, vous diriez qu'on est allé trop loin ?
Non, je ne dis pas qu'on est allé trop loin, ça n'a pas de sens. Je dis qu'on a eu une sorte d'hallucination, qu'on les a sacralisés. Mais cela dit, cet épisode, maintenant, on peut le réfléchir, on peut en parler tranquillement, et on peut se dire que ce sont des choses que nous avons, que le journal a publiées, qu'il a republiées, voilà, et puis c'est tout.
Edgar Morin, vous parlez des Français qui s'opposent. Un petit peu de politique. L'opposition idéologique, hein, même, au-delà des personnes. L'opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il est là le clivage français aujourd'hui ?
Non, moi je crois, personnellement, maintenant, il faut réfléchir à une politique qui intègre l'écologie comme un élément de ferment pour donner des investissements, du travail, et du développement. Il y a une énorme politique de relance, de salut public qui aujourd'hui pourrait rassembler au-delà de la gauche classique ou de la droite classique, mais toutes les bonnes volontés parce qu'il s'agit du salut du pays. Sinon, on ne sait pas dans quoi on retombe. Certains citent le nom d'un général très honorable, le général Villiers, qui déjà aurait eu 20% des suffrages s'il y avait des élections. On ne sait pas, l'avenir n'est pas joué. Toutes les erreurs qui sont menées dans le passé, c'est qu'on a projeté dans le futur des courants qui sont dans l'immédiat, alors qu'il peut y avoir des décompositions et des recompositions politiques sans arrêt.
Mais comment est-ce qu'on résout ces fractures ? Comment est-ce qu'on réconcilie des Français qui sont opposés ?
Il faut comprendre que la France est à la fois une à son unité et en même temps multiculturelle. Quand je dis multiculturelle, ça veut dire qu'au cours de son histoire, elle a intégré des peuples très différents comme les Bretons, comme les Alsaciens, comme les Occitans, comme les Basques, etc. C'est un processus historique énorme. Ces peuples sont devenus français et pourtant ils sont restés un peu eux-mêmes. Et je pense que les immigrés la deuxième génération, s'ils reconnaissent, s'ils entrent dans l'unité française, eh bien nous pouvons intégrer le tarama, le couscous. Parce que si les indices que la France est multiculturelle et ne voient pas l'unité, c'est la dislocation. Si les autres voient l'unité et ne voient pas la diversité, c'est l'homogénéisation qui elle-même est abstraite.
Edgar Morin, d'un mot, il y a eu une petite erreur chez nos confrères de RFI, sans leur jeter la pierre. On vous a annoncé pour mort sur leur site internet. Or, on vous ressuscite ce matin sur Europe 1. Mais simplement, Edgar Morin, il faut compter avec vous pour empêcher de penser facile, de penser en rond. Vous écrivez, vous travaillez, infatigable.
C'est amusant, n'est-ce pas ? Moi, c'est pour ça que j'ai fait un petit tweet disant « c'est une annonce prématurée ». Mais là-dessus, il est effectivement, je suis très content de pouvoir continuer à exposer les choses auxquelles je crois, de travailler, d'essayer de comprendre le monde où je suis, et je cherche à faire comprendre ce que je crois avoir compris. C'est peut-être ça qui me maintient en bonne santé et en activité.
Modestement, je retiens votre enseignement, Edgar Morin. Le pire est écrit, il est possible, mais il n'est pas certain.
Voilà.
Merci beaucoup, Edgar Morin.
Je vous remercie, monsieur. Merci.
Et je rappelle que vous avez publié, juste après le premier confinement, « Changeons de voix », Edgar Morin, chez De Noël. Merci beaucoup.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous allez retrouver évidemment cet échange, cet entretien avec Edgar Morin sur Europe 1.fr. 99 ans, la sagesse d'Edgar Morin sur Europe 1 aujourd'hui. Entre les plus prudents sur le front sanitaire et ceux qui espèrent relancer l'économie, les équilibres au sein du gouvernement, l'édito politique de Nicolas Bétou, c'est dans une toute petite minute avant de retrouver Nicolas Canteloup sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Bétou. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
On saura demain soir à quelle vitesse le pays sortira du confinement.
Oui, en particulier pour ce qui concerne la réouverture de ces commerces qu'on a maladroitement appelés non essentiels. En quelques semaines, les difficultés que le gouvernement leur a imposées sont devenues incompréhensibles. Et alors que Noël approche, l'émotion suscitée par le sort des commerçants empêchés de vendre obligeait le pouvoir à réagir. On avait atteint la limite de l'acceptabilité par l'opinion publique.
Le dispositif va donc, selon toute vraisemblance, être allégé.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un recul du gouvernement ?
Alors ce qui est sûr, c'est que la période politique est très différente de ce qu'elle était il y a 6 mois, au sortir du premier confinement. À l'époque, la marque de fabrique d'Édouard Philippe, c'était droit dans ses bottes. Il représentait le camp de la prudence sanitaire face à ceux qui voulaient desserrer plus vite l'étreinte sur l'économie française. Mais non, c'était le règne absolu du « quoi qu'il en coûte, on verrouille le pays, on indemnise ». Et on verra bien.
Et alors, qu'est-ce qui est différent cette fois-ci ?
Eh bien, le camp de la prudence sanitaire a perdu du terrain et celui des économiques en a gagné. Alors, tout ça ne s'est pas fait tout seul, hein. En fait, depuis le début, l'acceptation de ce reconfinement par l'opinion publique est limite. Le sort des commerçants, des bars, des restos est populaire. Le virus fait moins peur et l'approche des fêtes de Noël crée une forme d'exigence collective de la population. Les Français veulent pouvoir être en famille. Tout ça crée un contexte très différent de celui du printemps. Contexte qu'Emmanuel Macron semble avoir admis. Cette fois, le chef de l'État pilote la sortie du confinement au plus près des mouvements d'humeur et des évolutions de la population, quitte d'ailleurs à donner l'impression d'une politique de stop and go.
Et Jean Castex, il était entré affaibli dans cette séquence.
Oui, et il a toujours à ses côtés une rude concurrence politique avec des ministres très puissants qui jouent leur propre petite musique. Bruno Le Maire, par exemple, a habilement imposé son point de vue dans la gestion du dossier des commerces non essentiels et il a réussi à faire décaler le Black Friday. Autre poids lourd du gouvernement, Gérald Darmanin, a lui aussi poussé ses pions pour défendre les positions de son ministère, entre autres sur les questions de sécurité, mais avec moins de succès cette fois. Ce que Jean Castex n'a pas laissé passer le Premier ministre, s'est imposé dans le dossier de la célébration des messes. Les rapports entre l'Église catholique et le ministère de l'Intérieur s'étaient inutilement durcis. Quant à la loi dite de sécurité globale, eh bien le même Darmanin a dû faire marche arrière. Voilà, on a deux postures radicalement différentes. Autant Édouard Philippe était peu flexible et en tirait sa force politique, autant Jean Castex semble à l'aise avec les accommodements politiques et il s'en sert pour établir son autorité. Chêne ou roseau, rappelez-moi, lequel survit le mieux au coup de vent ?
Il y en a un qui plie. Voilà. Il y en a un qui
n'auront
tient
pas.
Mieux. Qui n'auront pas. Merci beaucoup Nicolas Bétou, l'édito politique. Il est 7h54.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Et tous les matins, juste avant 8h, il conseille à sa manière l'invité politique de la matinale, Nicolas Canteloup. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera Aurélien Taché, qui suscite un tollé après ses propos sur la polygamie. Il a estimé sur CNews que l'État n'avait pas à se mêler de la polygamie ou des certificats de virginité.
Bonjour, pardonnez-moi, c'est Dominique Lormanti.
Bonjour Dominique Strauss-Kahn.
Bonjour cher Mathieu Béliard, monsieur Bétou, j'aimerais vous préciser que je suis plus chêne que roseau.
Vous ne pliez
Écoutez,
pas.
Écoutez, concernant la polygamie, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai une opinion, l'opinion d'un économiste, mais aussi l'opinion de l'homme. La polygamie, je vous le dis tout de go. Je suis contre.
Ah bon, ah, on aurait pu croire l'inverse. Enfin,
pas du tout, je suis contre. Vous savez, Une épouse, c'est compliqué à gérer. Mais alors, 3 ou 4 épouses, c'est très difficile. Non, je suis très heureux de n'avoir qu'une seule épouse à qui, parfois, de temps en temps, cacher mes écarts, mes incartades. Plus, ce serait trop, ingérable. Après, l'économiste peut vous parler aussi, vous donner son avis. Je vois bien le bénéfice financier pour les caisses de l'État. Vous savez, quand on s'excuse, on doit s'excuser auprès de ses 4 épouses, ses 4 bouquets de fleurs, ses 4 bouteilles de champagne, 4 bons d'achat, Sephora, 4 restaurants étoilés pour se faire pardonner. La polygamie, je suis sûr que Nicolas Bétou sera d'accord avec moi, serait un booster économique formidable pour notre pays. Mais on ne peut pas toujours raisonner en fonction de l'argent.
C'est signé Nicolas Canteloup, pas toujours, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours à 7h55. Nicolas, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse. Que ce matin, Aurélien Taché, député du Val d'Oise et fondateur du mouvement Nous Demain, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. 7h58, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et pour dire à nos amis que la première des précautions ce matin, c'est quand même de se couvrir, puisque nous ne sommes pas loin des moins 4, moins 5 du côté d'Ambérieux et de Saint-Étienne, par exemple. Moins 3, moins 2, Dijon, Clermont-Ferrand, Lyon, et moins 1, 0 dégelé, hein, du côté de Luxeuil, de Toulouse, en banlieue toulousaine, en banlieue de Cognac, vers 2 degrés seulement à Nantes et Bordeaux, 5 à Marseille, bref, et une dizaine de degrés à Paris, qui est la ville la moins froide. Ce sont vraiment des températures d'hiver, hein, n'hésitons pas à le dire. Avec à la clé eh bien, des petites pluies pour certains d'entre nous. Alors, Dieppe, Deauville, l'Île-de-France, les Ardennes sont sous quelques petites bruines passagères. Bon, vous dites, tiens, il ne va pas faire beau aujourd'hui avec ce que je viens de raconter. Eh bien, si, il va faire beau. Il va faire beau sur les deux tiers de la France, Pays de la Loire, Poitou-Charente, Vendée, Sud-Ouest, Massif Central, Franche-Comté, Rhône-Alpes, bassin méditerranéen, sera du soleil. Et puis des petites bruines sur le nord, la Champagne-Ardenne, la Picardie, la Lorraine, la région parisienne et l'Alsace, qui sont des contrées où les nuages seront très têtus. Avec des températures maximales entre 11 et 15 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, installez-vous, écoutez le monde changer. Il est 8h.
La réalité, c'est qu'Amazon détruit de l'emploi dans nos territoires et dans nos commerces.
Est-ce la réalité justement ? Amazon est-il le grand méchant loup de l'économie française, destructeur d'emplois et contribuable modeste, comme on l'entend souvent ? Est-il au contraire l'allié des petites entreprises, comme il le suggère ? Le service économie et nos reporters ont enquêté les impôts, les emplois, les alternatives. C'est le dossier d'Europe 1 ce matin. Dans ce journal, faites entrer Paul Bismuth, ou plus exactement Nicolas Sarkozy, ainsi que son avocat et un ancien haut magistrat. Le procès de l'affaire des écoutes doit démarrer et l'ancien président a bien l'intention de démonter méthodiquement les soupçons de corruption et de trafic d'influence.
C'est un dissident de La République En Marche. Il a fondé le mouvement Nous Demain. Aurélien Taché, député du Val-d'Oise, invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce qui s'est passé ces derniers jours est absolument inédit. La France entière et même le gouvernement suspendu à une décision annoncée, telle celle d'un président, en direct aux 20h. Décision d'un homme, patron de la filiale française d'un géant américain, Amazon, qui acceptait de décaler le Black Friday d'une semaine.
C'est sa décision qui a validé ce report concédé par les plus grands distributeurs. Et cela nous a tous interrogés, d'autant plus qu'Amazon est souvent décrié à l'image des pétitions qui ont circulé ou encore de cette position exprimée par le député Mathieu Orphelin que Jean-Jacques Herry a joint pour Europe 1.
Amazon ne respecte aucune des règles qui s'imposent au petit commerce. Par exemple, Amazon ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France. Amazon organise un système de fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés. Cette injustice fiscale fait qu'Amazon, évidemment, au final, est toujours le moins cher. On a un autre problème aussi, c'est que seuls 5% des vendeurs sur Amazon.fr sont des PME françaises. La moitié des vendeurs sur Amazon.fr sont des entreprises chinoises. Donc, on voit bien que au-delà du discours rassurant, très positif, la réalité, c'est qu'Amazon détruit de l'emploi dans nos territoires et dans nos commerces.
Bonjour Clémence Le Saffre.
Bonjour.
Du service économie d'Europe 1. Clément, on va prendre le temps ce matin avec vous et la rédaction d'analyser ce que représente vraiment Amazon concrètement. Quel est le poids d'Amazon en France ?
C'est simple, hein. Un Français sur deux utilise régulièrement Amazon. Alors pour vous donner une idée, c'est 1 sur 4 pour la Fnac et cette domination elle est encore plus écrasante si on regarde les ventes. Amazon détient 22% de part de marché du e-commerce. Loin derrière, on trouve Cdiscount avec à peine 8%. Les autres ventes privées, Fnac, Darty, La Redoute ne se partagent que des miettes.
Alors derrière ces parts de marché, Clément, Amazon, c'est combien d'emplois, combien de sites ?
C'est 27 sites en France, dont 7 centres de distribution. Ce sont des entrepôts gigantesques où sont préparées les commandes, comme celui de Brétigny-sur-Orge que nous décrit Stéphane Taillé, le directeur du centre.
Vous voyez, c'est un site qui est robotisé. Les robots ici amènent le stock à nos salariés plutôt que le salarié aille au-devant du stock. On est sur un bâtiment qui fait le rez-de-chaussée et 2 étages. On a 55 000 m² d'empreinte au sol. Alors 50 000 m² au sol, il y a 3 étages, on devait faire la multiplication à peu près 150 000.
Voilà, et en plus de ces centres immenses, il y en a 20 autres plus petits qui permettent de couvrir tout le territoire. Au total, Amazon y emploie 9300 personnes en CDI. Et pour la période des achats de Noël, ils peuvent aller jusqu'à doubler les effectifs grâce à 9000 intérimaires en plus.
Donc là, on voit d'un côté, Clément, des emplois créés, mais on entend souvent qu'Amazon détruit des emplois.
Oui, c'est le député de la majorité, Mounir Majoubi, qui a une formule mathématique pour ça. Un emploi créé chez Amazon, c'est deux emplois détruits dans les commerces de proximité.
C'est vrai ça ?
Ce qui est sûr, c'est que le commerce électronique détruit des emplois partout où il passe, mais quelle est la part de responsabilité d'Amazon ? Ça, c'est impossible à dire avec précision. Le géant américain, lui, il se défend en évoquant son impact global sur l'économie. En plus des 9300 CDI, il affirme que son activité génère ainsi 110 000 emplois indirects dans le transport, la logistique, etc. Amazon, c'est par exemple le premier client de La Poste.
Alors, et puis, on parle beaucoup sur Europe 1 de ces petits commerces qui tentent de se numériser pour lutter en ce moment. Bercy, d'ailleurs, a promis de les aider, ça avance ?
Doucement, oui. Le gouvernement a mis en place un site, clicmoncommerce.gouv.fr. En 10 jours, il a reçu 100 000 visites.
Alors justement, on a voulu voir comment cette riposte des petits commerçants se concrétisait.
Pour Europe 1, Stéphane Place s'est rendu à Cognac. La municipalité a lancé, il y a 3 semaines, une plateforme de e-commerce comme une parade des magasins du centre-ville à Amazon.
Celui-là. Hop. C'est sur le seuil de cette boutique de jouets du centre de Cognac que Camille vient récupérer les jeux qu'elle a commandés en ligne sur le site acheteracognac.fr, ouvert il y a 2 semaines.
En naviguant dessus, j'ai trouvé des choses qui pouvaient être intéressantes. C'est des jeux pour enfants. Nous, on habite Cognac depuis pas très longtemps, les centres-villes se meurent, donc on essaye de faire vivre un petit peu nos petits commerçants.
40 de ces petits commerçants charentais déjà référencés sur ce site local, de l'alimentation au prêt-à-porter, en passant par la déco, la beauté et les jouets que vend Sandra, ravie d'avoir mis en ligne 600 articles de son magasin.
Là, je dirais qu'on doit être à 50% du chiffre qu'on aurait dû faire. Alors si ça continue sur la même lignée, le mois de novembre va pas être cata et on est espéré que le mois de décembre, parce qu'on sait toujours pas si on va ouvrir, sera pareil grâce à ce site. J'ose espérer qu'on va s'en sortir.
C'est la municipalité qui avait, avant même la crise sanitaire, lancé ce projet. 40 000 euros pour la mise en place du site et 20 000 euros pour son fonctionnement. Sébastien Garnier est le manager de commerce de la ville de Cognac.
Chaque commerçant a une page vitrine achetée à Cognac, suivie du nom de la boutique, pour aider aussi au référencement, 2 à 3 heures de formation donc par commerçant.
Et la conviction que ce site marchand restera un outil indispensable pour les petits commerces, même après cette crise sanitaire.
Alors Clément Le Saffre, ce genre d'initiative, ça fonctionne ?
Oui, il y a quand même des centaines de villes qui s'y mettent en ce moment. Il y a un mouvement de fond, très clairement, on peut le dire. Et ça n'est pas sans conséquence pour Amazon, puisque sa part de marché a baissé de 2 points au début du reconfinement.
Alors, est-ce qu'on est obligé d'être enfermé dans cette espèce de rivalité avec les PME d'un côté, le géant américain de l'autre ? Il y en a qui vendent tout de même leurs produits sur Amazon.
Oui, et peut-être même plus que vous ne le croyez. 11 000 PME françaises quand même vivent en partie grâce à Amazon. En moyenne, chacune réalise 35 000 euros de chiffre d'affaires par an sur la plateforme. Et ça leur ouvre surtout des marchés à l'international. 70% d'entre elles exportent. Et c'est loin d'être anecdotique. Un produit sur deux vendu sur Amazon l'est par une PME partenaire. Elle paye un abonnement. 40 euros par mois, c'est une belle vitrine, mais qui a aussi ses contraintes. Les PME s'adaptent à Amazon, elles n'ont pas vraiment le choix, comme Gérard, libraire qui vend ses livres sur la plateforme.
C'est pas une grosse machine, c'est un rouleau compresseur. Il y a 3 ans, la commission était de 10% seulement, aujourd'hui elle est passée à 15%, ça a été décidé de manière unilatérale. Ah oui, c'est eux qui imposent les règles, 100% des règles. On ne discute pas. Et donc les fournisseurs ne sont pas traités du tout, on est des objets, on est remplaçables. Disons que je fais avec...
Et je me tourne vers vous, Emmanuel Duteil. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Chef du service économie d'Europe 1.
Avec vous, on parlait des impôts. Amazon ne paierait pas d'impôts en France comme on l'entend ?
Eh bien, Amazon a payé 420 millions d'euros d'impôts et de taxes l'an dernier pour un chiffre d'affaires de près de 6 milliards. Pour un tel chiffre d'affaires, Intermarché a révélé il y a quelques jours sur Europe 1 en payer 4 fois plus. La raison est simple, Amazon paie des impôts uniquement sur ce qui est vendu par sa filiale française, c'est-à-dire les produits vendus par lui sur son site internet en France. Mais comme Amazon fait très peu de marge, voire pas du tout sur cette activité, et qu'il investit à tour de bras dans la logistique, eh bien cette filiale ne rapporte quasiment rien, d'où ce faible montant d'impôts. Car ce qui rapporte de l'argent chez Amazon, ce sont les services informatiques et le stockage de données de façon dématérialisée. Et là, ces filiales sont installées au Luxembourg et échappent donc à l'impôt. En tout cas, Amazon va devoir, comme les autres géants d'Internet, s'acquitter de la taxe GAFA. Elle sera prélevée le 10 décembre et le chèque, rien que pour Amazon, se calculera en dizaines de millions d'euros.
Merci pour ces précisions, Emmanuel Duteil. Merci Clément Le Saffre, le service économie de la rédaction d'Europe 1, mis
à contribution ce matin pour expliquer, pour comprendre l'actualité. Finalement, on a beaucoup parlé d'Amazon, c'est une marque et c'est aussi un système, une organisation du e-commerce que nous avons décrit ce matin sur Europe 1.
À la une cette semaine, vous connaissez les 3 C, alors ce n'est pas du rugby, hein, c'est de la politique, cohérence, clarté et un cap. Voilà ce que promet Emmanuel Macron pour sa prise de parole de demain 20h sur l'allègement du confinement. Ce matin, Jean Castex et 9 ministres consultent les élus et professionnels des stations de ski.
Deux Français sur 10 prêts à se faire vacciner tout de suite contre le coronavirus. Sondage BVA pour Europe 1 dévoilé ce matin.
Oui, et 6 sur 10 hein, au total sont d'accord avec cette vaccination. La provenance du produit peut jouer. Moins de 20% des Français voudraient un vaccin russe ou chinois, tandis que 72% accepteraient un vaccin d'un labo français. Les résultats complets de ce sondage sont à la une d'Europe1.fr. Concernant le télétravail, la prise en charge des frais, par exemple, y aura-t-il de nouvelles obligations ou une simple clarification des règles existantes? Les syndicats et le patronat négocient cet après-midi, séance censée être conclusive. Et puis cette annonce de Danone il y a quelques minutes, 2000 postes vont être supprimés, dont 4 à 500 en France, parmi les fonctions administratives.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant, au cœur de la défense de Nicolas Sarkozy face au tribunal aujourd'hui dans l'affaire des écoutes. A tout de suite sur Europe 1, il est 8h09.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Une ligne téléphonique ouverte sous un nom d'emprunt, Paul Bismuth, pour un ancien président de la République. L'affaire avait pu faire sourire, mais les motifs qui ont amené les juges à renvoyer Nicolas Sarkozy devant un tribunal correctionnel n'ont rien de divertissant, corruption et trafic d'influence. Lui et son avocat et ami, Thierry Herzog, soupçonnaient d'avoir fait miroiter un coup de pouce professionnel à un magistrat en échange d'informations sur un autre dossier. Précisons que ce troisième prévenu, Gilbert Azibert, a demandé le renvoi pour raison de santé.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Du service police-justice d'Europe 1. Vous nous révélez ce matin sur Europe 1 l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy, toujours aussi remonté contre les juges.
Et oui, tous ses proches l'affirment, Nicolas Sarkozy est déterminé. Il veut s'expliquer publiquement après plus de 50 heures d'interrogatoire devant les policiers et les juges sur cette affaire qu'il estime grotesque, tout en rappelant que dans cette affaire de corruption, eh bien, il n'y a pas un seul centime en jeu. Il s'agit, vous l'avez dit, en réalité d'une demande d'information couverte par le secret sollicitée par l'avocat de Nicolas Sarkozy auprès d'un haut magistrat. Alors en droit, quel que soit le résultat obtenu, s'il y a un lien entre le service demandé et la contrepartie promise, eh bien cela caractérise la corruption et le trafic d'influence. Mais la défense de l'ancien chef de l'État affirme que tout cela ne repose sur aucun élément concret, hormis les écoutes téléphoniques, des écoutes que les avocats pourraient d'ailleurs contester dès le début de l'audience. Quant au contenu de ces fameuses conversations qui ont brutalement changé de ton un jour précis sur les deux lignes, la ligne officielle et la ligne Bismuth, faisant penser aux enquêteurs que les intéressés ont pu être mis au courant par un tiers qu'ils étaient écoutés, eh bien là encore, la défense fait valoir que ce n'est pas le cas et met en avant le fait que l'enquête sur l'origine de cette possible fuite a débouché au bout de presque 6 ans sur un classement sans suite.
Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Quant au procès des attentats de janvier 2015, il va pouvoir reprendre ce matin après 3 semaines d'interruption pour des cas de Covid. Le principal accusé, qui est toujours indisposé, suivra les débats depuis sa prison en visioconférence. Triste spectacle selon plusieurs avocats de la défense qui dénoncent une violation, je cite, inique des droits fondamentaux des justiciables.
Le retour de la musique peu à peu dans un monde qui rêve de fêtes et de la chaude ambiance des festivals. Cette nuit, à Los Angeles, avaient lieu les American Music Awards 2020.
Et voilà, le live du Canadien The Weeknd récompensé, tout comme notamment Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga ou encore Cardi B.
C'est l'actualité de la nuit et c'est une visite guidée dans la playlist Spotify de François Geffrier.
Merci François. Ça donne envie d'y être, mais on n'est que lundi matin, c'est la mauvaise nouvelle de la journée.
Il danse en studio, François Geffrier. C'était le journal de 8h. Merci François, il est 8h12 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous, il est l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
On va changer un peu d'ambiance. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité est un récidiviste de la provocation. Ses récents propos sur la polygamie ont suscité une vive indignation. Un député de la République peut-il dire cela sans conséquence? Il s'en explique sans détour ce matin. Aurélien Taché, député du Val d'Oise.
A tout de suite sur Europe 1, 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, c'est le député Aurélien Taché, fondateur du mouvement Nous Demain.
Bienvenue et bonjour Aurélien Taché.
Bonjour.
Dans le cadre du projet de loi contre le séparatisme, vos propos décrivant la polygamie, je cite, comme un mode de vie différent ont suscité une vive indignation. Pensez-vous être encore digne d'être député de la République ?
Je le crois, oui. Vous savez, être député de la République, c'est aussi participer à des débats politiques parfois compliqués. Il m'arrive souvent de le faire, peut-être même plus souvent qu'à mon tour, mais c'est parce que j'ai l'impression aussi parfois d'être l'un des seuls à rappeler mon inquiétude sur la montée du racisme dans ce pays. Et parfois, le propos dépasse la pensée. En l'occurrence, c'était le cas. La polygamie, c'est souvent lié à des mariages forcés. C'est une forme d'obscurantisme.
Souvent ?
C'est un obscurantisme. Il faut le condamner et je n'aurais certainement pas dû faire cette comparaison. Mais pas de faux procès. Pas de faux procès. Moi, j'ai toujours été, tout mon engagement le prouve, du côté du droit des femmes. J'ai fait partie du dernier groupe parlementaire qui vient de faire allonger le délai IVG. J'ai proposé des choses pour que les femmes sans-abri soient mieux prises en compte. J'ai signé les amendements les plus progressistes sur la PMA. Je n'ai aucun procès à recevoir sur cette question. Et sur l'obscurantisme et l'islamisme aussi, j'ai toujours été au rendez-vous, Sonia Mabrouk.
On va en parler, bien sûr, Aurélien Taché. Mais si quelqu'un tient des propos pour faire la promotion de la polygamie, vous seriez indigné, choqué ?
Bien sûr que j'en serais totalement indigné. Encore une fois, tous les obscurantismes doivent être combattus. Vous savez, moi j'ai été en 2013 à Tunis pour soutenir les démocrates en Tunisie, je crois que c'est un pays que vous connaissez bien, contre les islamistes, contre Ennahda, contre finalement ceux qui là-bas faisaient ce genre de promotion. J'ai dans ma circonscription été participer dans les écoles à de nombreux débats sur la laïcité pour expliquer ce que c'est que la République. Donc encore une fois, je suis inquiet d'une certaine instrumentalisation du droit des femmes ou de la laïcité pour servir des agendas qui peuvent être des agendas xénophobes et je le dénonce avec force, mais on ne pourra pas me prendre en défaut sur ces questions-là qui sont extrêmement importantes pour moi.
C'est important. Je vous donne un exemple précis, Aurélien Taché. Lorsque Assa Traoré, demi-sœur d'Adama Traoré, parle de la polygamie de son père, évoquant, je cite, « une expérience formidable », elle est libre de le penser, de le dire ?
On est toujours libre de penser de ce qu'on... On est toujours libre de sa pensée. En revanche...
C'est pas faire la promotion de la polygamie,
en
là.
Revanche, l'État, lui, doit être très ferme en disant qu'effectivement, ce type de pratique-là n'a rien à faire dans les lois de la République, quand en République, le mariage, c'est deux personnes, et qu'effectivement, il doit y avoir une égalité des droits qui est préservée. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de propos. En revanche, encore une fois, je le redis, attention, le projet de loi sur le séparatisme, pourquoi j'ai parlé de ça à ce moment-là ? Le projet de loi sur le séparatisme, moi, ma crainte, c'est que finalement, il n'apporte que très peu de réponses en matière de terrorisme et qu'en revanche, il puisse être instrumentalisé dans un contexte de xénophobie.
Mais quelle instrumentalisation ? Parce qu'Aurélien Taché, vous avez parlé de morale, mais quel rapport avec la morale ? Parce que vous avez mis sur le même plan certaines pratiques sexuelles librement consenties entre adultes et la polygamie qui est un asservissement de la femme.
Je vous le redis, cette comparaison était une erreur, très malvenue, je n'aurais pas dû la faire, mais en revanche, allons sur le fond du sujet. Le projet de loi séparatisme, finalement, je pense qu'il n'apportera quasiment aucune réponse en matière de lutte contre le terrorisme. Mais par contre, qu'il peut, en introduisant tout un tas de dispositions sur l'immigration, en introduisant tout un tas de dispositions sur ces fameuses chartes de la laïcité, être instrumentalisé pour justement désigner certains Français en raison de leur culture ou de leur religion. Je vous donne un exemple. Au Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse vient de faire adopter une charte de la laïcité. Tous les élus de gauche ont refusé de la signer, y compris les élus socialistes. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient très bien que cette charte de la laïcité n'apportait rien en matière de renforcement de la laïcité.
Donc on ne fait rien.
Non.
Donc parce que vous pensez que le résultat n'est pas atteint,
pour
on ne fait rien.
Non, je ne dis pas qu'on ne fait rien. Je dis qu'il faut faire des choses utiles. Quand Olivier Faure dit qu'il faut que les élus aillent dans les écoles parler de laïcité, il a raison, il faut le faire. Moi, je l'ai fait la semaine dernière, je le referai la semaine prochaine. Mais on ne fait pas, en tout cas, dans la loi, des choses qui peuvent contribuer à un agenda xénophobe.
Pourquoi on fait tout cela ? Parce que derrière tout ce dont on parle depuis le début de cet entretien, il y a la réalité selon laquelle certains placent les pratiques et les lois religieuses devant les lois de la République dans notre pays. Est-ce que c'est un phénomène qui ne vous inquiète.
Mais bien sûr que c'est inquiétant, mais vous savez comme moi que quand on est croyant, on a toujours cette contradiction entre les lois finalement, les croyances qu'on a et la loi de la République. Simplement, il faut être très clair dans sa vie de citoyen, la loi de la République s'impose et doit être appliquée. Donc moi je n'ai aucune espèce
Pourquoi
de difficulté
quand on est
là-dessus.
Croyant, on a cette dichotomie ? Non, quand on est croyant dans un pays comme la France, les lois de la République priment.
Les lois de la République priment toujours dans votre vie de citoyen, dans votre vie civile. Mais vous pouvez, quand vous posez cette question à quelqu'un, finalement l'interroger aussi sur sa propre foi. Donc il va vous dire, moi j'ai ma foi, mais en tant que citoyen républicain, et l'immense majorité de nos concitoyens musulmans sont dans cette logique-là, et on respecte les lois de la République. En revanche, je le redis, ce genre de loi-là n'apportera rien de supplémentaire à la laïcité, qui est déjà très bien encadrée dans notre pays, et peut participer à cet agenda.
Monsieur
moi,
Taché,
cette montée du racisme, elle me préoccupe.
Attendez, on ne parle pas de racisme. Selon un sondage IFOP, une majorité de Français musulmans de moins de 25 ans affirment mettre l'islam avant la République. Ça vous paraît marginal, la majorité ?
Ça ne me paraît pas marginal. Je dis simplement qu'encore une fois, tant que les lois de la République sont respectées, et c'est ce que fait l'immense majorité de nos concitoyens musulmans, parce que vous n'avez pas 40% de nos concitoyens qui ne respectent pas les lois de la République. Si je reprends votre question, d'accord, on a cette étude-là.
C'est un sondage que je vous cite.
Oui, mais dans les faits, ils respectent les lois de la République, tous ces gens-là. Donc je ne vois pas pourquoi on viendrait rajouter des choses dans la loi
là-dessus. Parce qu'il y a l'islam politique, monsieur Taché, parce que certains disent qu'il y a un lien de causalité entre remise en cause des principes de républicains et une imprégnation islamiste chez une partie de la population.
Eh bien, moi, je ne crois pas. Je crois que pour faire reculer le terrorisme, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait s'y prendre. Bien souvent, les gens qui sont dans une rupture par rapport au terrorisme sont des gens qui finalement se disent quoi ? Vont peu à la mosquée, ont peu d'éducation religieuse et qui finalement, sur Internet, voient des choses et se disent « Ah, voilà, moi, tu me prends pour un loser, eh bien, je vais pas être un... J'en suis pas un, je vais aller me réaliser dans une aventure funeste et obscure comme celle du terrorisme. » Donc ça révèle des fractures bien plus profondes. Et encore une fois, je ne vois rien dans le projet de loi actuel ou dans la politique du gouvernement pour vraiment lutter contre cette radicalisation. Et je ne vois rien non plus pour lutter contre le climat xénophobe qui est
Pourquoi
en train de progresser.
Pourquoi vous ne voyez rien ? Certains disent que c'est un aveuglement. Quand vous dites, par exemple, monsieur Taché, les religions... Mais pardonnez-moi, les juifs, depuis toujours, l'affirment haut et fort, la loi de l'État, force de loi.
Mais bien
d'abord
sûr.
Et avant tout. Vous dites les religions.
Mais toutes les religions, enfin dans la pratique, Madame Mabrouk, aujourd'hui au quotidien, toutes les religions finalement acceptent cela. On ne va quand même pas dire qu'une immense majorité de nos concitoyens musulmans ne sont pas respectueux de l'héros de la République. C'est pas ce qu'on constate tous les jours dans les faits. Donc je ne crois pas que ce soit la bonne manière de faire. Et moi je vous le redis, ceux qui instrumentalisent ces questions de laïcité, et ils sont
mais
nombreux.
Mais qui sont mais, ceux qui instrumentalisent Nommez-les, pointez-les, dénoncez-les.
J'ai parlé de Valérie Pécresse à la région
Valérie
de France.
Valérie Pécresse
oui,
instrumentalise la laïcité.
Quand elle fait une charte de la laïcité que toute la gauche refuse de voter. Uniquement pour faire plaisir à Sens Commun et à des gens qui, justement, dans sa majorité Sens Commun, c'est ce mouvement contre le mariage pour tous, eux n'ont pas eu de problème à aller manifester aux côtés des frères musulmans, c'est ce qu'elle fait. Donc moi, je suis très inquiet de ça, je vois les dégâts du racisme tous les jours dans ce pays et on ne fera pas l'économie de ce débat-là.
Et vous, monsieur Taché, auprès de qui vous manifestez ?
Moi, je n'ai été manifesté que dans des manifestations tout à fait classiques.
Lesquelles, par exemple ? Eh bien, est-ce que vous avez manifesté lors de la manifestation
non,
contre l'islamophobie ?
Non, je n'ai pas été manifesté à ce moment-là parce que je pense qu'effectivement, il ne faut pas que ces débats soient pris en otage par des gens qui ont d'autres opinions que nous. Moi, je suis contre tous les obscurantismes. Et donc, quand il y a des islamistes dans une manifestation, je n'y vais pas. Mais je le redis, nous ne nous battons pas assez à gauche et on ne fera pas l'économie sur cette question du racisme, finalement,
des pays musulmans.
De mener un véritable combat. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est extrêmement important parce que...
Et nous allons continuer à en parler. Mais des pays musulmans et la presse anglo-saxonne dénoncent la politique d'Emmanuel Macron qualifiée de politique anti-musulman. Ils ont tort ?
Je ne dis pas que Emmanuel Macron mène une politique anti-musulman. Je dis qu'en revanche, il est très faible sur la politique antiraciste. Emmanuel Macron, c'est le seul chef d'État qui n'a pas prononcé le mot de George Floyd. Emmanuel Macron, il était très attendu sur la question des discriminations. Il a fait un grand discours au Mureau où il y avait une deuxième partie qui concernait le racisme. On attend toujours la grande loi sur les discriminations. On attend toujours
Monsieur
dans le plan de relance des moyens pour le logement social et lutter contre les ghettos.
Je vous parle de lutte contre l'islamisme, vous me répondez racisme. Moi, je repose ma question. Est-ce qu'il y a, selon vous, une islamophobie organisée en France ?
Non, je ne pense pas ça, mais je pense qu'en revanche, il y a un climat raciste qui est facilité par tout ce qu'on entend souvent sur des chaînes de télé, par ce qu'on entend par certains responsables politiques qui instrumentalisent en permanence ce climat, en disant peut-être même parfois qu'il faut aller jusqu'à tirer sur nos concitoyens français ou musulmans. On entend ce genre de choses sur les plateaux télé et personne ne réagit. Qui mène la bataille ? Moi, j'y vais. Peut-être parfois trop souvent, peut-être parfois même en ayant des propos qui dépassent ma pensée, mais parce que je suis inquiet. Encore une fois,
on
tous ces
entend,
Français qui
dites...
se sentent stigmatisés, ils n'iront plus voter
vous dites pas
face,
d'islamophobie,
face à Marine Le Pen
pourtant,
parce qu'ils ont l'impression que plus personne ne les défend et que ça ne vaut plus le coup
vous
d'aller
dites,
voter.
Monsieur
C'était
Taché.
Pourtant pour ça qu'Emmanuel Macron avait été élu.
Monsieur Taché, vous dites pas d'islamophobie. Pourtant, en septembre dernier, dans l'Express, pas d'islamophobie organisée, j'entends, vous avez dit il y a un racisme anti-musulman chez les élites. Donc il y a, selon vous, une islamophobie institutionnalisée chez les élites.
C'est pas la même chose, l'islamophobie et le racisme anti-musulman.
Ah, vous allez m'expliquer.
Parce
expliquer la nuance, parce qu'elle était nue.
Oui, l'islamophobie, ça pourrait donner l'impression qu'on interdit toute critique de l'islam. On doit pouvoir critiquer l'islam comme toutes les religions. En revanche, qu'aujourd'hui, le musulman soit souvent vu comme la nouvelle figure de l'immigré arabe ou noir, comme on le considérait il y a 20 ou 30 ans, c'est une réalité. Et ce n'est pas moi qui démontre qu'effectivement, quand on est jugé comme étant de culture musulmane ou immigré maghrébin, on est 8 fois plus contrôlé par un policier. Ce n'est pas moi qui dis qu'effectivement, il faut envoyer 8 fois plus de CV. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Je vous assure que c'est quelque chose sur laquelle la génération actuelle ne fera pas l'impasse.
Allons plus loin dans votre analyse de dénonciation du racisme anti-musulman, comme vous l'appelez. La jeune Mila, constamment menacée pour ses vidéos polémiques sur l'islam, c'est du racisme anti-musulman ?
Ce n'est absolument pas du racisme anti-musulman. Elle a parlé d'Allah, de Dieu, donc effectivement, elle est bien dans une critique de l'islam virulente, avec son jeune âge, avec des propos forts, et elle en a bien le droit, et il faut être absolument
et
derrière
vous la
cette jeune fille. Le racisme anti-musulman...
Non,
moi,
est-ce
j'ai
que
dit
vous
est...
la soutenez ?
Bien sûr que je la soutiens.
Qui
je
la menace, selon
parfaitement.
Vous ?
Parfaitement. Des islamistes, contre lesquels il faut lutter. Mais est-ce que parce qu'il faut lutter contre les islamistes, on doit finalement abdiquer sur les discriminations dont je parlais juste avant ? Est-ce qu'on doit finalement se dire qu'il suffit de condamner comme ça, de manière un peu symbolique, le racisme pour ces jeunes gens qui, dont les parents sont, ou les grands-parents sont venus en France et
mais,
qui continuent
Taché,
de me dire chaque jour dans ma circonscription,
pourquoi,
je vais partir, monsieur Taché. Monsieur J'irai Taché. Au Canada, en Angleterre, je vais partir.
Attendez.
Parce que la France ne veut pas de moi.
Qui abdique, selon vous où sont les nouvelles féministes ou militants homosexuels qui passent plus de temps à défendre le voile, le CCIF que Mila ?
Mais ça, je le regrette profondément. Encore une fois, il n'y a pas à défendre le CCIF ou qui que ce soit en l'occurrence. Mais oui, qu'elle soutienne Mila, qu'elle soutienne aussi les jeunes femmes qui, parce qu'elles portent un voile, se font attaquer, qu'on traite d'islamistes politiques alors qu'elles peuvent avoir juste fait le choix de porter un voile dans leur expression religieuse. Moi, je ne choisis pas. Je défends Mila, je défends Mariam Pouchetou, je défends toutes les femmes, quel que soit finalement le choix qu'elles font.
C'est vrai que vous ne choisissez pas. Vous avez comparé le voile islamique à un serre-tête. C'est ce qui s'appelle du relativisme culturel.
Oui, bah écoutez, ça fait partie de ces moments où je vous dis que dans des débats passionnés, on peut avoir son propos qui dépasse sa pensée.
Dépasser le cadre. Combien de fois, monsieur Taché, vous allez revenir sur vos propos ce matin ?
Je le reconnais. Écoutez, ça fait 2 fois et je crois que ça suffira.
Peut-être une troisième. Quand le gouvernement a pris des mesures à l'encontre d'une famille originaire de Bosnie en séquestré et tondu une jeune femme musulmane de 17 ans accusée d'être éprise d'un jeune serbe chrétien, vous avez accusé les ministres concernés de remettre une pièce dans le jukebox de la haine anti-musulman. Vous revenez sur ces propos aussi.
Ce que je voulais dire ce jour-là, c'est que on instrumentalise là aussi une affaire judiciaire terrible. Cette jeune fille a été frappée. Cette jeune fille a subi des choses terribles, mais on en profite pour faire revenir des choses comme la double peine. C'est-à-dire que quand vous êtes étranger, vous devez
Monsieur
en plus
Taché.
D'être condamné, d'être expulsé.
En quoi dénoncer, comme les ministres Darmanin et Schiappa l'ont fait, c'est un lynchage, c'est être anti-musulman. En quoi ?
Parce que vous avez dans cette affaire effectivement quelque chose de terrible qui consistait à avoir des gens qui étaient originaires d'ex-Yougoslavie une partie de la famille
Peu
serbe,
importe,
l'autre partie
origine. Lynchage d'une jeune femme, en quoi dénoncer comme les ministres Darmanin et Schiappa l'ont fait un lynchage, c'est être anti-musulman. Je ne comprends pas. Ou alors vous laissez entendre que le lynchage fait partie du mode de vie des musulmans.
Absolument pas.
C'est clarifié.
Simplement, encore une fois, ça fait partie de ces moments, ça fait partie de ces sujets où je trouve que
vous avez
on
parlé
prend ces sujets de droits des femmes sans penser à ce qui va arriver à cette jeune fille, en se disant d'ailleurs on expulse sa famille, tant pis si là-bas la famille se met à frapper d'autres jeunes femmes et on fait de la politique sur des sujets qui, à mon avis, sont trop sérieux pour être instrumentalisés.
Monsieur Taché, pour conclure, vous allez avoir le courage de démissionner, de vous présenter sous vos propres idées telles que vous les avez énoncées ce matin.
Mais pourquoi je démissionnerai
Parce
moi,
que vous avez été investi avec La République En Marche et que ce n'est pas sincère.
Oui, mais La République En Marche, elle avait fait beaucoup de promesses sur cette question des inégalités du racisme qu'elle n'a pas tenue. Et donc moi, je me présenterai sous les couleurs de mon mouvement Nous Demain si un jour je me représente. D'ailleurs, je fonde un nouveau mouvement politique parce que beaucoup attendaient d'Emmanuel Macron sur ces sujets-là et n'ont pas finalement ont été extrêmement déçus. Mais ce n'est pas moi qui ai changé de politique. Ce n'est pas moi qui ai fait une loi qui réprime les libertés, différentes lois d'ailleurs qui répriment les libertés. La liberté de la presse, on s'en prend aux étudiants. On affaiblit les anticorps de la République, Madame Mabrouk, en ce moment. Et ça, c'est très grave. Les extrémistes, que ce soit Front National ou islamiste, profiteront de cet affaiblissement des anticorps de la République qu'Emmanuel Macron et sa majorité sont en train de mettre en place.
Merci d'être venu vous expliquer ce matin sur Europe 1, Aurélien Taché. Et évidemment, on écoute toutes les sensibilités sur notre radio. Merci, bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info avec Hélène Zélani. À tout de suite.
Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Un ancien chef de l'État jugé pour corruption, c'est à 13h30 que doit s'ouvrir tout à l'heure le procès de Nicolas Sarkozy. L'ancien président qui promet d'être combatif est jugé dans l'affaire des écoutes, la fameuse affaire Paul Bismuth. Il est soupçonné d'avoir tenté avec son avocat Thierry Herzog d'obtenir d'un haut magistrat Gilbert Azibert des informations dans une procédure judiciaire. Pour le défenseur de Thierry Herzog, maître Paul-Albert Ivins, cette affaire, elle ne tient pas la route.
Tout repose dans ce dossier sur des bribes et des extraits de conversation entre un avocat et son client qui sont montés en épingle ou mis abusivement en relation pour venir à l'appui d'une thèse qui ne résiste pas à l'examen. Ce qui est grave, c'est que ce sont des conversations entre un avocat et son client. Et donc il y a un véritable problème de secret professionnel, du secret des avocats. Et dans cette affaire, on a écouté tout le monde. On a interrogé tout le monde. Nous démontrerons que ça ne tient pas la route une seule seconde. Quand on entend corruption, on entend parler de trafic, d'argent. Dans cette affaire, il n'y a pas un sou. Il y a des conversations entre amis dont on tire des conclusions qui ne correspondent pas à la réalité.
Maître Ivin s'interrogeait par Chloé Triomphe. Le doute subsiste sur l'ouverture de ce procès. Tout à l'heure, Gilbert Azibert, qui a 73 ans, demande un report de l'audience pour raison médicale. 6 Français sur 10 partant pour se faire vacciner contre le Covid, résultat du sondage BVA qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. Mais sur ces 60%, seulement 20% envisagent de le faire dès que possible. Ce matin, le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford annoncent que leur vaccin est efficace à 70%. C'est nettement moins bien que Pfizer, BioNTech ou Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%. Plan social en vue chez Danone. On apprend ce matin que la direction compte supprimer jusqu'à 2000 postes dans ses sièges en France et à l'étranger. Pour la France, précise le PDG Emmanuel Faber, 400 à 500 personnes seront concernées, essentiellement des directeurs. Objectif du groupe Danone, 1 milliard d'euros d'économies d'ici 2023 pour renouer avec la croissance. Patronat et syndicats se retrouvent cet après-midi pour la séance finale de négociation sur le télétravail, mais reste pas mal de points sensibles en suspens, Olivier Samin.
Oui, la grande interrogation, c'est de savoir si le patronat va finalement accepter que le texte qui sortira de la négociation crée de nouvelles obligations pour les entreprises. Jusqu'à présent, il ne le voulait pas. Il estime qu'il y a déjà tout ce qu'il faut en droit et que le but de la négociation, c'est seulement de clarifier les règles existantes pour permettre aux entreprises de les appliquer plus facilement. Les syndicats, eux, exigent de nouvelles obligations. Quand il s'agit, par exemple, de définir les postes télétravaillables, ils réclament que ce soit négocié dans l'entreprise. Le patronat estime, lui, que ce sujet relève du seul pouvoir de l'employeur. Autre sujet qui coince, la prise en charge par l'entreprise des frais occasionnés par le télétravail, l'abonnement Internet par exemple, ou les frais de chauffage. Le texte prévoit cette prise en charge, mais les syndicats le jugent ambigu et ils voudraient que dans chaque entreprise, un forfait de quelques dizaines d'euros par mois soit institué. Enfin, le texte prévoit tout un chapitre sur le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles comme l'actuelle pandémie. Dans ce cas de figure, c'est l'employeur qui décide de basculer ses équipes en télétravail. Les syndicats, notamment FO, veulent que cette décision relève directement des pouvoirs publics.
Olivier Samin, ils vont plaider la cause des quartiers défavorisés. 9 maires s'entretiennent tout à l'heure avec le Premier ministre Jean Castex. Les élus de Roubaix ou Envelin ou encore Garges-lès-Gonesse veulent alerter sur la détresse sociale et économique de ces quartiers à cause de la crise sanitaire. Autre rendez-vous en visio pour le Premier ministre, cette fois avec les professionnels de la montagne qui espèrent que les stations de ski pourront rouvrir pour Noël. Parmi les invités, le maire de La Plagne, Jean-Luc Bock. Il est aussi président de l'Association nationale des maires des stations de montagne.
Les stations de sport d'hiver françaises emploient 120 000 personnes. On peut ajouter à cela la même chose en Valais et dans les régions autour des stations. Donc ce serait dramatique si on ne pouvait pas ouvrir pour Noël, mais on est prêt à attendre. Si tant est que la situation sanitaire au niveau des Valais, au niveau des hôpitaux, ne s'est pas améliorée. Et en tout cas, il faut prévoir et penser à ces travailleurs saisonniers. On ne peut pas les laisser sur le bord de la route. Ils doivent avoir des aides du gouvernement et que le plan tourisme fonctionne pour eux aussi.
Un propos recueilli par Diane Berger. Puis le foot, c'était une belle soirée hier pour Lille qui a battu Lorient 4-0 et garde sa deuxième place au classement derrière le PSG.
Merci beaucoup Hélène Zélani. 8h35, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, une grande partie de la France sous le soleil. Je vais vous citer les régions, chers amis. Pays de la Loire sont des régions ensoleillées. Hein. Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Vendée, tout le sud-ouest, tout le massif central, la Franche-Comté, toute la région Rhône-Alpes et tout le bassin méditerranéen. Alors attention dans ces régions, il y aura du soleil, mais parfois il y a beaucoup de brouillard ce matin. Mais ne vous en faites pas, dès 11h ou midi, le soleil sera présent. Des éclaircies cette fois sur la Bretagne, le centre et le Mâconnais cet après-midi, où là aussi il y a beaucoup de brouillard, notamment dans la vallée de la Saône. Et puis si vous êtes en Normandie, Nord, Picardie, Ardennes, Champagne, Lorraine, en Ile-de-France et en Alsace, ça restera bien gris. Hein. On n'aime pas trop ça, ce type de temps. C'est humide, c'est maussade, c'est avec mignon, on n'aime pas. Voilà, notamment sur Paris, les brines sont là ce matin ou seront là. Et ensuite, il y aura quelques rayons de soleil sur la capitale. Les températures sont froides ce matin, je n'y reviens pas, hein, on en a beaucoup parlé. Moins 5 à plus 7 degrés en général. Et dans la journée, entre 10 et 15 degrés, grâce à l'ensoleillement, bien souvent, le thermomètre va marquer une petite remontada.
Voilà. Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h36, on prend soin les uns des autres le matin sur Europe 1. On va retrouver Fanny Agostini dans un tout petit instant. Mais d'abord le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Depuis le Covid, nous n'avons jamais fait autant attention à respecter les gestes barrières. Ces fameux gestes barrières qui pourraient limiter aussi la résistance aux antibiotiques.
Oui, alors tout d'abord, il faut rappeler que les antibiotiques ont sauvé des millions de vies au travers d'infections qu'on peut traiter, qui étaient incurables à l'époque, comme une pneumonie, de la tuberculose ou une septicémie. Alors ces antibiotiques, ils ont été découverts en 1928 par Alexandre Fleming, mais il a fallu attendre les années 40 avant d'avoir une industrialisation des antibiotiques. Tout ça pour vous faire comprendre que c'est assez récent, alors qu'à l'échelle de l'humanité, les bactéries sont là depuis des millions d'années. À mesure qu'on traite des infections avec des antibiotiques, les bactéries qu'on cherche à détruire vont devenir de plus en plus résistantes. Car quand vous mettez de la pénicilline, par exemple, vous allez tuer 99,9% des bactéries. Il va toujours rester un petit fragment et ce petit fragment va devenir résistant. Il va créer des mécanismes pour s'adapter et résister à ces antibiotiques. Or, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que ces antibiotiques sont prescrits en médecine de ville quand vous allez voir votre médecin généraliste, notamment pour une rhinopharyngite, à tort évidemment, une bronchite, une gastro de temps en temps, ou même la grippe. Or, avec les gestes barrières, toutes ces infections virales, on ne les voit plus. Il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de bronchite, il n'y a plus d'infection classique en dehors du Covid. Et donc, avec ces gestes barrières, le fait de se laver les mains, d'être à distance, de mettre de masque, va faire qu'on aura moins d'infections virales et donc moins de prescriptions d'antibiotiques.
Je me souviens très très bien de la fin du tout premier confinement où vous me disiez, Jimmy, que vous commenciez à revoir des angines, certaines maladies qu'on ne voyait plus. Je vous disais bonne nouvelle ou pas, vous me disiez si les gestes barrières étaient respectés, ces maladies-là ne passeraient pas.
Exactement.
D'ailleurs, Jimmy, au passage, pardon, mais en cas d'infection due au Covid, est-ce que les antibiotiques sont utiles, inutiles ?
Alors non, ils ne servent à rien. En tout cas, il faut se souvenir que le Covid est une infection virale et que sur un virus, un antibiotique ne marche pas. Alors, ce qu'on a observé, c'est que les patients qui arrivaient aux urgences pour des Covid un peu sévères étaient tous mis par leur médecin sous antibiotiques, notamment l'azithromycine. Cet antibiotique avait été proposé par le professeur Raoult dans son protocole et du coup, par conséquent, on a tous prescrit de l'azithromycine à tort. Donc, on va peut-être créer des résistances en faisant ça. Donc, je peux comprendre les patients, quand vous avez cette infection, de vouloir avoir un traitement. On ne peut pas vous en vouloir. Et on peut aussi comprendre les médecins de vouloir proposer un traitement, car nous n'avons pas de traitement de référence pour le Covid, mais ça ne sert strictement à rien. Même chose quand vous avez une bronchite, qui n'a pas été voir son médecin pour dire « Écoutez, docteur, ça tombe sur les bronches. » Ce n'est pas parce que ça tombe sur les bronches qu'il faut prescrire des antibiotiques. D'une façon générale, ce que vous devez retenir, c'est qu'une infection virale respiratoire évitée, c'est un antibiotique qui est préservé.
Merci beaucoup, Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve tous les jours de 15h à 16h. L'émission Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez. 8h39, notre planète tous les matins avec Fanny Agostini. À présent, bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Fanny, vous nous dites qu'une étude récente montre que l'environnement occupe aujourd'hui une place de choix dans les journaux.
Oui, c'est très intéressant. L'Institut National de l'Audiovisuel vient de publier son étude au sujet de la place que prennent les sujets environnementaux aujourd'hui comparativement à il y a 20 ans. On observe clairement une trajectoire en dents de scie avec des pics. À chaque fois qu'il y a eu une COP, une conférence des parties sur le climat, celle de 2009 qui s'est tenue à Copenhague a été grandement médiatisée, tout comme la COP21 en 2015 à Paris qui a bénéficié d'une très très grande couverture médiatique. Mais en dehors de ces grands rendez-vous sur le climat qui sont des temps forts où l'attention se focalise sur l'environnement. On peut dire que c'est mou du genou. L'attrait chute fortement juste derrière, en tout cas entre ces grandes rencontres internationales.
Sauf, vous nous dites, depuis 2 ans, on constate un vrai boom dans les médias.
Alors oui, il aura fallu une brusque intensification des phénomènes météorologiques violents, mais aussi une accentuation de la sécheresse en France comme ailleurs, avec des incendies colossaux en Australie, en Californie. La mobilisation aussi et les marches pour le climat avec sa figure de proue Greta Thunberg, les élections européennes ainsi que les municipales qui furent une vague verte sans précédent. Tous ces événements ont propulsé l'environnement sur le podium des sujets les plus abordés dans les journaux. Si l'on s'arrête sur les journaux télévisés de TF1, France 2, France 3, M6, le nombre de sujets consacrés à l'environnement a doublé, passant de 702 sujets entre 1997 et 1998 à 1540 la saison dernière, c'est-à-dire entre 2019 et 2020, soit une moyenne de 11 minutes dédiées quotidiennement. Idem d'ailleurs pour la radio, d'après l'INA. Il y aurait eu un rebond exceptionnel la saison dernière avec la question climatique et environnementale traitée trois fois plus que l'année d'avant.
Ouais. Alors ce qui est nouveau aussi, Fanny, ce n'est pas seulement le temps que les médias consacrent à ces sujets, ce sont aussi les angles plus diversifiés, plus approfondis.
Mais oui, clairement, les questions climatiques et la perte de la biodiversité prennent une place prépondérante. Et la nouveauté, en effet, c'est que l'environnement est de plus en plus considéré par les grands médias comme un prisme, touchant aussi bien à l'économie qu'à la politique, qu'aux questions de santé publique ou même de géopolitique. L'homo journalicus est aujourd'hui conscient du lien étroit entre le théâtre où se joue l'action, que l'on appelle la nature, et les répercussions qu'ont sa détérioration sur les sociétés humaines, ce qui n'est pas encore suffisamment le cas au gouvernement. On entendait Edgar Morin ce matin, malgré la prise de conscience sociétale sur le fait que l'écologie n'est pas un sujet isolé, nous continuons à avoir des gouvernements qui cloisonnent l'action pour l'environnement, principalement dans un ministère dédié. De surcroît, le ministère de l'écologie n'est pas un ministère dont l'influence est transversale, en tout cas, pas assez pour faire infléchir des décisions prises par les ministères de l'économie, du budget, de la justice ou encore de la santé.
Merci Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1. Il est 8h42, dans quelques toutes petites minutes, nous retrouvons Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez Mathieu, on vous retrouve tout de suite pour un rappel de l'actu.
Oui, bonjour Julie, bonjour à tous. C'est Mathieu Béliard, l'info du jour, c'est ce chiffre, 20%, en effet, des Français sont prêts à se faire vacciner tout de suite contre le Covid. Les autres hésitent encore, il faut bien le dire, sauf s'il est fabriqué, tenez-vous bien, en France.
Ah,
et oui, on préfère le « made in France », Julie, mais seulement, il faut le préciser, sur les vaccins. C'est vrai qu'une télé, un téléphone ou un pull fabriqué par un enfant indonésien, c'est OK. Mais un vaccin fabriqué par un scientifique chinois, c'est non. Voilà, c'est radical. Voilà, c'est l'info du jour. On a une xénophobie à taux variable. Voilà, ce matin, je suis un petit peu philosophe.
Oui, bravo.
Oui, mais c'est normal, j'ai quand même interviewé pendant 5 minutes Christian Morin. J'ai d'ailleurs oublié de lui demander pourquoi, je l'appellerai, pourquoi il avait arrêté la clarinette.
Non, mais...
parce que c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas entendu Christian Morin. Pardon là. Oui. Ah d'accord. Ok. Non, la régie, c'est gentil. Jean de la régie me dit que c'est Edgar Morin, le grand philosophe. Bon, l'autre info. On change de sujet. Je suis plus à l'aise. L'autre info, c'est Jonathan Daval. Jonathan Daval condamné ce week-end à 25 ans de prison ferme. Et c'est vrai qu'on a une pensée pour la famille de la victime et surtout pour BFM Télé. Et les pauvres, on sent que c'est leur série Netflix à eux qui viennent de finir là. Jonathan pleure, Jonathan ment, Jonathan a un petit kiki. Allez, courage BFM, il y a toujours le coronavirus qui est là.
Oui. Merci Mathieu.
Courage, il y a toujours le coronavirus.
Celle-là.
Bah justement, tiens, on va parler du dénouement dans le procès de Jonathan Daval. Il a donc été condamné à 25 ans de prison. Éric Dupond-Moretti, bonjour.
Bonjour madame.
J'attends qu'il respire. Une réaction ce matin?
Nous avons à faire là, madame, un jugement sévère, mais un jugement juste. 25 années de réclusion criminelle et la confiscation de sa pince à épiler les sourcils, de son gel coiffant Vixoxion forte et de ses disques de Mylène Farmer.
Oui, bon, ça va être peut-être le plus dur pour lui, ça.
C'est dur. Inhumain, disons le mot. Inhumain, même. Mais n'oublions pas que Jonathan Daval est âgé de 36 ans et qu'il, s'il se tient bien, correctement, un bon comportement en prison, avec les remises de peine, il sortira dans 12 ans, c'est-à-dire à l'âge de 48 ans, où il pourra enfin profiter...
De la liberté.
Non, du 24e confinement. Car dans 12 ans, j'ai fait le calcul, on en sera donc à la 13e vague et au 24e confinement à raison de 2 confinements par jour, vu que les Français refusent obstinément de comprendre qu'il faut, c'est une urgence absolue sanitaire de se laver les mains. Et que ça aussi, c'est criminel. Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur le ministre. Ou dis donc. Le président de la République va s'exprimer demain soir. Bonjour, Emmanuel Macron.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux confinés, aux confinettes, aux confiseurs, aux confiseuses et à tous les autres petits commerçants qui bientôt pourront rouvrir leurs magasins, leurs échoppes, leurs commerces. En mai dernier, je vous ai annoncé le déconfinement et le retour des jours heureux. C'était l'île aux enfants. Voici venu le temps des rires et des chants. Eh bien là, non, n'y pensez même pas. Je sais... Je vais vous annoncer le retour des jours merdiques. C'est venu le temps des faillites et des plans.
Bon, désormais. Donc demain, vous n'allez pas prononcer le mot de déconfinement, j'y arrive.
Non, je ne vais pas le prononcer. Je vais jouer au ni oui ni déconfinement. Si je dis oui au déconfinement, j'ai perdu. Si je dis déconfinement, même tout seul, simplement le mot, j'ai perdu aussi.
Alors demain, vous devriez annoncer un confinement allégé en 3 étapes. La première étape serait la réouverture des commerces le 28 novembre avec un client pour 8 mètres carrés, c'est ça ?
Un client pour 8 mètres carrés, bravo. Voilà, c'était important d'éviter les bousculades pour les achats de Noël. Alors, les gens devront désormais faire la queue à l'extérieur. Voilà, on veut éviter qu'ils tombent malades en se contaminant à l'intérieur de la boutique. On préfère qu'il tombe malade en restant inactif dans le froid et sous la pluie. Ça soulagera, vous savez, les soignants de n'avoir à s'occuper que de banales pneumonies.
Eh ben, ça promet. Bon, il va y avoir de longues files d'attente partout, du coup.
Non. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura personne dans les magasins. Vous savez bien que quand les Français font leurs achats pour les cadeaux, c'est toujours le samedi d'avant Noël. Regardons-nous tous entre les yeux, on est tous pareils. On reporte la corvée jusqu'au moment où c'est plus possible.
Bon, et du côté des bars et des restaurants, on est plus proche d'une réouverture en janvier, c'est ça ? Mais la profession est vent debout. Hein.
Écoutez, je comprends le désarroi des restaurateurs et des patrons de bars. Pour aider les commerces, j'avais demandé aux Français de décaler leurs achats.
Oui.
Alors, dans la même veine, pour aider les restaurateurs, je demande aux Français de décaler leur repas.
Oui, bien sûr.
Il faut aider les patrons de bar. Et je dis aux patrons de bar, décalez vos cuites, décalez vos murges, décalez vos bitures. Vous pouvez attendre avant de vous bourrer la gueule. Je sais bien que je vis dans un pays de sac à vin, mais vous pouvez quand même attendre 6 semaines avant de vous pinter comme des pochetrons. Au nom de la République, au moins. Monsieur Cagrolle, je n'ai pas voulu vous citer, mais tout le monde avait bu entre les vignes.
Avait lu entre les vignes. Bu entre les vignes.
Vous la garderez, celle-ci.
Très bien. Ouais. Merci, monsieur le président. Les vaccins contre le coronavirus pourraient être disponibles dès la mi-décembre, mais qui vacciner en priorité ? Il va répondre à cette question. C'est le docteur Simès.
Bonjour à tous, bonjour Marina, qui vacciner, bonjour Jimmy, pardonnez-moi, c'est lui comme confrère, qui vacciner en priorité, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, deux écoles s'opposent, ceux qui pensent qu'il faut vacciner en priorité les personnes les plus vulnérables, ainsi que le personnel soignant, et ceux qui pensent que le vaccin c'est peut-être de la merde, qu'il est peut-être pas prêt à 100%, et que si c'est pour choper une sclérose en plaques dans 2 ans, vaut peut-être mieux vacciner en priorité les Clodo, Jonathan Daval et les candidats de la télé-réalité.
Non mais, rassurez-nous quand même, il est sûr ce vaccin ?
Oui, bien sûr qu'il est sûr. Mais bon, comme il y a quand même 17 milliards de dollars pour le labo qui va dégainer le premier, c'est possible qu'ils aient lâché 2-3 étapes pour aller vite.
Mais comment on va le savoir ça ?
Eh bien, c'est très simple, ma chère Marina. Si votre pharmacien ne s'est pas fait vacciner, mais qu'en revanche, un épisode des Marseillais sur W9 s'appelle « Aujourd'hui, tous à la piqûre », vous aurez déjà un début de réponse. Allez, salut à tous.
Salut, docteur, et merci. Un mot de littérature. Tiens, les mémoires de Barack Obama cartonnent. En une seule journée, l'ancien président a vendu presque 1 million de son livre aux États-Unis et 350 000 en France, soit déjà plus en une semaine que les mémoires de Nicolas Sarkozy.
Mais quel est Quoi ? Mais quelle indignité, Mampujadas. Mais arrêtez ! Arrêtez d'acheter ! Franchement, je le dis aux acheteurs, arrêtez d'acheter ce livre honteux qui me salit de façon salissante et m'infâme de manière totalement infamante.
D'autant que la semaine dernière, on n'avait que les bonnes feuilles du livre d'Obama, mais maintenant, on a pu lire ce qu'il dit exactement de vous, et je vais le citer. Il parle de vous, hein, M. Sarkozy, de petite taille, 1m66, il portait des talonnettes pour se grandir, on aurait dit un personnage sorti d'un tableau de Toulouse-Lautrec.
Mais quelle indignité vous rendez compte révéler, et en plus vous vous relayez ça, révéler la taille d'un homme qui n'est même pas ma taille d'ailleurs, parce que je conteste formellement ces chiffres.
D'accord.
Je conteste tous les chiffres, comme les versements de Kadhafi, c'est jamais les bons chiffres.
En tout cas, il n'est pas très il est pas très sympa avec vous, Obama. Hein.
Non mais franchement, est-ce que tiens, je vous pose la question, Mme Leclerc, Monsieur Beillard, Monsieur Mohamed, est-ce que moi, dans mes mémoires, j'ai parlé du tour des fesses de sa femme, qui est d'1m66 aussi d'ailleurs, à Michelle Obama. Oui, je l'ai vu. Hein. Elle a les mêmes cuisses que Mike Tyson. Non, ça vous fait rire. Mais voilà, Monsieur Cabrol. Voilà le niveau du livre. Voilà. Depuis quand on balance les mensurations des gens dans des mémoires de président de la République ou de chef d'État ? Est-ce que Reagan aurait écrit « Mitterrand avait un petit kiki » ? Non. Voilà. C'est honteux. Honteux, ce livre. Faut pas liser ça, je le dis aux gens.
Alors, vous préférez parler de cette nouvelle comparution devant la justice dans l'affaire des écoutes. Vous êtes accusé d'avoir tenté de corrompre un magistrat, Gilbert Azibert, qui aurait pu vous fournir des informations au sujet d'autres affaires dans lesquelles vous étiez impliqué.
Je dis, Monsieur Béliard, vous colportez des ragots inuits. C'est dingue. Des accusations totalement mensongesques. Je n'ai jamais tenter de corrompre Gilbert Paris-Brest.
Non, c'est Gilbert Azibert, oh là là. Paris-Brest,
je
n'importe quoi.
Comme vous voulez, je ne connais pas ce...
Alors, on vous reproche d'avoir élaboré avec votre avocat une tentative de corruption de ce magistrat sur un téléphone secret où vous vous faisiez appeler Paul Bismuth, on s'en souvient.
Non, mais enfin, ça se souvient, mais c'est ridicule. En plus, c'est même pas moi, Paul Bismuth. Alors là, tout vous tombez bien. Vous tombez très, très bien parce que je suis justement en train de boucler mon dossier de preuve que je dois remettre à la justice demain.
Oui. Hein,
attendez, si vous permettez que je finisse.
Hein. Oui.
Les gars, on s'y remet, là. Hein. Ziad, il est où, Ziad ? Takedine, il est où ? Ziad ? Ah, t'es là. Tu viens ici. Aujourd'hui, on fait tu as révisé ton texte ? Bon, voilà, on fait la vidéo Paul Bismuth. T'as le texte ? Vous êtes prêts ? La lumière, s'il vous plaît. Moteur, action ! Bonjour, je m'appelle Paul Bismuth. C'est mon pseudonyme quand je suis inscrit sur adopteunmec.com. Ce n'est pas du tout celui de Nicolas Sarkozy qui, bien sûr, est innocent. Coupé ! C'est pas mal. T'as buté un bon moment sur un mot, hein, Ziad. C'est pas mal. On la garde au secours.
Bravo, Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse qu'a réécouter encore sur Europe1.fr. On salue les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. 8h56, Philippe Vandel est là, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour Mathieu, et de quelle manière notre info média du jour, on sera avec le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, Cédric O. On va aborder les dossiers en cours du gouvernement en matière de médias numériques. Il y en a l'application Tous Anti-Covid qui peine à décoller, le déploiement de la 5G, le développement des sites de commerce en ligne ou encore l'électronisme, autrement dit le manque de connaissances numériques de base d'une partie de la population. Cédric O sera là. Au sommaire également, le nouveau magazine féminin de l'animatrice d'affaires conclues sur France 2, Sophie Davant. Il s'appelle S comme Sophie, destiné aux femmes de 50 ans et plus. Aussi avec. C'est une copie de O, le magazine d'Oprah Winfrey, la star américaine de la télé. Et on sera aussi avec Jérémy Parère, qui est le patron de la rédac du magazine et aussi de Télé 7 jours. Et puis le chanteur et nouveau coach de The Voice, Vianney, pour son troisième album, ça s'appelle N'attendons pas.
La matinée continue avec Philippe Vandel, c'est Culture Média. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.